fois, la semaine dernière, donc j'ai dû fabriquer un titre. J'ai appelé ça un sous-titre, qui est, je suis familier de cette rhétorique, tiens, je peux bien l'emprunter, merci. Et j'ai appelé ça la modernisation comme grammatisation. J'ai dit bien la modernisation. En fait, j'avais dit modernité comme la modernité, mais en fait c'est la modernisation comme grammatisation, parce que il n'y a pas la modernité pour moi, il y a des modernités. Par contre, il y a un processus, qui est le processus de modernisation. Et il y a un sous-titre qui est « Modernités en couches », avec évidemment un jeu de mots qui consiste à dire que la modernité est feuilletée, stratifiée, il y a des modernités, toujours déjà, et non pas une modernité, et en couche au sens aussi où elle accouche d'elle-même. C'est un processus qui accouche de modernité, voilà, sans cesse. Alors avant de développer tout cela, je vais faire une période, comme on dirait en rhétorique, de préalable et de motif, à la fois sur ce séminaire, la séance de ce séminaire, et je dirais la finalité qu'il poursuit, à savoir l'organisation d'un colloque qui se tiendra maintenant dans un peu moins d'un an. Cette période comportera 6 points qui constituent donc des attendus de ce que je dirai ensuite. Premier point, nous avons connu ce que Polanyi a appelé la grande transformation, c'est-à-dire l'imposition du marché, mais pas simplement celle du marché, à travers l'imposition du régime du marché, si je puis dire, ce qu'on pourrait appeler l'instabilisation de la société, le passage du stable à l'instable. Je veux dire par là que j'ai beaucoup défendu dans certains textes qui ont déjà pas mal d'années maintenant, l'idée que, à partir de la fin du XVIIIe siècle, quelque chose se produit qui est un basculement où le monde qui paraît stable, est fondamentalement stable, même si il a des aspects d'instabilité, mais il paraît être assis sur une stabilité fondamentale, en tout cas dans la conscience de l'homme ordinaire. Et comme je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est ça qui m'intéresse d'abord, cette conscience de l'homme ordinaire. À partir donc du 19e siècle, il y a une conscience d'instabilité qui s'instaure et qui vient progressivement renverser l'a priori de la stabilité. Ce qui va conduire très vite au 19e siècle à affirmer le primat, si l'on peut dire, du devenir sur l'ontologie, d'une pensée en termes de devenir et non plus en termes d'ontologie, d'une physique du devenir, par exemple, avec la thermodynamique, etc., etc. C'est ce que j'appelle moi, en jouant avec le titre de Polanyi, la grande transformation, telle qu'elle donne la société moderne, qui se vit elle-même comme donc un processus de transformation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour ce qui nous concerne, nous, maintenant, nous vivons une autre transformation, et je dirais une beaucoup plus grande transformation. Ce que je veux dire, c'est que cette instabilisation qui est apparue au début du XIXe siècle, et qui constitue ce que j'aurais envie d'appeler la société moderne au sens fort, parce que je pense qu'il y a des sociétés modernes au sens faible, au sens moyen, au sens fort, au sens très fort, on pourrait presque dire ultra-moderne. La société moderne au sens fort, c'est-à-dire la société industrielle, parce que finalement, c'est ça pour moi la société moderne au sens fort, c'est une société qui, bien que étant instabilisée, si je puis dire, par le processus industriel en tant que tel, elle s'appuie malgré tout sur ce qui reste de couches de stabilité que sont en particulier la physique atomique et la biologie, ou disons les sciences du vivant, qui posent que tout se transforme, La société se transforme tous les jours, des automobiles apparaissent, des trains apparaissent, l'électricité apparaît, l'électron apparaît, etc. Mais en même temps, il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher, qui sont les structures élémentaires de la matière, les structures élémentaires du vivant. Ça, c'est ce qui a fait la règle, si je puis dire, d'instabilité relative de la société jusqu'à nos jours, et c'est ce qui est en train de changer. Troisième point, à présent, avec ce qu'on appelle les nanotechnologies et la méta-convergence, comme on l'appelle aux États-Unis, ce qu'aime bien désigner comme ça Jean-Pierre Dupuis, NBIC, Nano Bio Information and Cognitive Technologies, nous ne sommes plus du tout dans ce cas. Il n'y a plus du tout de stabilité. Par exemple, on parle d'organismes atomiquement modifiés. On parle d'organismes génétiquement modifiés. Cette ontologie explose de toutes parts. Il n'y a plus aucune couche qui semblerait pouvoir constituer la dernière couche stable d'une ontologie. Alors, ça pose la question de ce qu'on pourrait appeler une ultramodernité, une archimodernité. Si on pose que la modernité, c'est ce qui développe et systématise l'instabilité. En tout cas, je parlerai d'un processus de méta-instabilisation des principes d'organisation de la matière et du vivant. Et là, je dirais trois choses pour développer ce troisième point. Premièrement, cette terrible instabilité, je dis terrible parce qu'elle est vertigineuse et qu'on sent bien qu'elle met la société dans une situation tout à fait nouvelle. Cette nouveauté tient au fait que ces technologies n'apparaissent plus du tout à la société comme étant des représentantes de ce qu'on a appelé le progrès. En tout cas, pas du tout d'une manière évidente et spontanée. Cette instabilité, c'est ce qui porte par ailleurs la question de l'individu. Alors là, je parle un petit peu la langue de Gilbert Simondon. De l'individuation telle que Simondon essayait de la penser et telle qu'il l'a définie comme un processus de trans-individuation du pré-individuel. Ce que Simondon dit, l'individuation, c'est ce qui suppose des milieux pré-individuels. Et ces milieux pré-individuels, lorsqu'ils s'individuent dans l'individuation psychique collective, c'est-à-dire dans la société humaine, et pour l'être psychique que nous sommes, ça produit du trans-individuel. Eh bien, on voit bien ici, et là c'est une manière pour moi de répondre d'ailleurs à un article qui est paru dans la revue philosophique signée de Jean-Yves Barthélémy et Vincent Bontemps, on voit bien ici comment le trans-individuel revient dans le pré-individuel. C'est-à-dire que le pré-individuel est intégralement reconfiguré par le trans-individuel. Et donc il n'y a plus de différence entre le pré-individuel et le trans-individuel. Moi j'ai toujours interprété la philosophie de Gilbert Simondon comme ça, contre Gilbert Simondon. Parce que Simondon lui-même ne la définit pas comme ça. Régulièrement il dit le pré-individuel, c'est ce qui reste la nature. Il appelle ça la nature. Et là on voit bien qu'il n'y a pas de nature. Que, en tout cas il y en a peut-être eu. Moi je crois qu'il n'y en a jamais eu en réalité. Pour des raisons que j'ai d'ailleurs développées dans un article dans la même revue, la revue philosophique. Mais en tout cas, là, on voit bien que dans ce qu'on appelait la nature, à savoir les lois de la physique et les lois du vivant, devient trans-individuable par la technique industrielle. D'autre part, deuxième point sur ce point 3, deuxième remarque. Ces phénomènes qui se développent avec les nanotechnologies et les biotechnologies requièrent une intelligence collective nouvelle, tout à fait un sursaut tout à fait exceptionnel de l'intelligence individuelle et collective de ces phénomènes. On sent bien qu'il faut absolument que la conscience de la nouveauté de la situation se produise, la conscience ou la pensée, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la même chose. Je lance comme ça en passant une proposition étrange, que la conscience et la pensée ne soient pas la même chose forcément, mais je pense que c'est un des éléments fondamentaux de la discussion à venir sur ces sujets. En tout cas, cette intelligence collective des phénomènes, on a l'impression qu'elle est précisément détruite et anéantie, précisément par le développement de ces NBIC. Ces technologies-là. Au moment même où nous voyons, où nous savons, ou en tout cas nous avons l'impression que l'homme n'a plus de bornes, C'est-à-dire qu'il peut absolument tout transformer, qu'il n'y a plus de limite à son action, et qu'il est véritablement déchaîné, au sens où on a employé cette expression souvent en référence évidemment à Prométhée. Et au moment où il paraît être totalement déchaîné, sans limite et sans chaîne, on a l'impression en même temps qu'il a totalement perdu les capacités de s'orienter. Ce deuxième point était un point de dramatisation fait pour introduire le troisième point qui est le plus important pour moi de ces préalables, dont j'avais d'ailleurs dit quelques mots ici dans une séance que Pierre Damien avait organisée. Dans cette situation d'une exceptionnelle difficulté et je crois d'une très exceptionnelle gravité, il faut revenir sur les questions philosophiques de la critique de la modernité, c'est-à-dire de la métaphysique. Je veux parler ici de, en particulier de ce qu'on a appelé la French Theory, où Jean-François Lyotard a défini la modernité depuis le point de vue de la postmodernité qu'il défendait comme étant finalement la modernité chez Lyotard. Qu'est-ce que c'est? C'est l'époque ultime de la métaphysique, au sens où Heidegger a parlé de la modernité. C'est-à-dire que c'est la modernité comme philosophie du sujet. Heidegger aurait dit plutôt clôture de l'histoire de l'être. Il faut donc revenir sur les questions philosophiques de la critique de la modernité et poser comme un principe intangible, je suis très très affirmatif, délibérément, que dans une telle situation, la philosophie non seulement doit devenir une expérience de combat, mais elle doit réaffirmer absolument, sans réserve, la nécessité d'agir et donc de décider. Car on ne peut pas agir sans décider. Et on ne peut pas décider d'agir sans réfléchir. Mais on doit réfléchir en vue d'agir. C'est une nouvelle tâche, je crois, qui est assignée à la philosophie et plus généralement à la pensée aujourd'hui. Et je le dis parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, aujourd'hui, la possibilité de manipuler atomiquement la matière, si on reprend cette expression, d'ailleurs dont il faut vérifier qu'elle est vraiment appropriée à la situation, j'en suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, la possibilité, disons, de nanostructurer la matière, et la possibilité de modifier les molécules du vivant, et d'intervenir sur les réplications de l'ADN, etc., porte le niveau de décidabilité de l'espèce humaine sur tout son milieu à un point absolument incommensurable et pose un problème de la décision dans des conditions absolument nouvelles. Décision qui se dit crisis en grec. Et la philosophie s'est constituée pour faire face à des possibilités nouvelles de crisis. Dans une crisis produite par les possibilités nouvelles de crisis, aujourd'hui elle doit se reconstituer comme une nouvelle critique. Évidemment, je le dis en posant aussi que la critique, ça a été considéré, notamment dans la philosophie française en particulier, comme quelque chose relevant de la métaphysique. L'âge de la critique a été un âge du sujet, un certain âge de la philosophie, dont, pour une part au moins, la postmodernité considérait qu'il s'agissait d'en faire le deuil. Quatrième point, donc, c'est là l'enjeu pour moi du colloque modernité. Mettre à l'épreuve cette hypothèse, ou cette thèse plutôt, qu'après le postmoderne et la déconstruction, qui ont à juste titre déconstruit le discours de la maîtrise, et que ce soit bien clair, il me paraît absolument inconcevable de revenir sur ce point, ce serait revenir à Luc Ferry. Et le discours de la maîtrise reconduit à la dénégation de tout ce que je viens de dire. Donc il n'est pas question du tout de revenir à un discours de la maîtrise, bien au contraire. Je crois que ce sont des acquis majeurs de la modernité, de la postmodernité et de la déconstruction que d'avoir une bonne fois pour toutes, mis un terme au fantasme d'un discours de la maîtrise. Il n'en reste pas moins qu'il est absolument urgent et indispensable d'ouvrir la question d'une nouvelle critique et d'une nouvelle possibilité de penser et de vouloir dans ce contexte où tout devient sujet à décision. Absolument tout. Cinquième point, il n'y a plus de couche ni de la matière ni du vivant qui ne puisse pas faire l'objet des décisions, et ces décisions sont prises aujourd'hui, tous les jours, non pas tant par l'industrie d'ailleurs que par le capitalisme financier, qui conditionne, requiert et, comme disait Heidegger, commet l'industrie. Mais Heidegger disait que c'était l'industrie qui commettait le savoir. Moi je dis que c'est la finance qui commet l'industrie. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Face à cette capacité de décision de l'industrie financiarisée, que je crois tendanciellement irresponsable, pour une raison très précise que j'ai développée tout récemment un samedi après-midi au Théâtre de la Colline, parce qu'elle est contrainte par le très court terme, parce que c'est une industrie, c'est une finance ultra spéculative qui ne vit plus que sur des retours sur investissement à 2 ou 3 ans, et qui donc pose en principe après moi le déluge, c'est-à-dire une fois que j'ai pris mes bénéfices, Inch'Allah, une critique est capable de poser que d'autres modèles de décision de la société depuis une nouvelle intelligence du fait technique est requise. Une critique capable de poser, de soutenir d'autres modèles de décision de la société depuis une nouvelle intelligence du fait technique est requise. Et je pense que dénier cette requête, si je puis dire, est d'une extrême gravité. Dénier que il soit possible de répondre à cette requête est d'une extrême gravité. Mais j'ajouterais que j'affirme que tout cela n'est pensable que depuis la question de l'individuation technique. Et c'est ça la nouveauté. C'est ça qui a été posé comme question. Enfin, pas posé comme question. C'est ça qui a été introduit comme question, justement par Foucault, Deleuze, Derrida et Lyotard, de près ou de loin. Tous très différemment d'ailleurs, mais c'est ce qui n'a pas été posé comme question. Et je pense que c'est la question qui se pose à nous aujourd'hui, de fait. Et je dirais que bien loin d'être l'extension d'un Gestell, qui serait l'accomplissement de l'être comme calcul, c'est la thèse de Heidegger, qui pose en principe que calcul et indéterminé s'opposent, c'est-à-dire que ce qui est calcul détruit l'indéterminé. Moi, je pense qu'il faut d'abord poser en principe que l'indéterminé et le calcul composent, c'est-à-dire que l'indéterminé est indéterminé par le calcul, mais pas simplement par le calcul, mais par le désir en tant que le désir calcule, et qu'il n'y a pas de désir qui ne calcule pas, mais qu'il y a toujours au-delà du calcul, un désir du calcul, si je puis dire, qui dépasse le calcul. Et que le devenir technique et technologique, qui est aussi psychique et social, est un processus d'individuation dont on peut et dont on doit acquérir une intelligence nouvelle. Et avec elle, avec cette nouvelle intelligence, un nouveau pouvoir diacritique, c'est-à-dire discriminant, et en cela un nouveau pouvoir de décidabilité, de débat, de contradiction, etc. Et qu'il faut sortir du plaisir, souvent délicieux, de parcourir les labyrinthes de l'indécidable. On a eu droit à ça pendant 30 ans, c'était indispensable d'ailleurs. C'était le mouvement aporétique qui précède le mouvement d'une skepsis. Nous sommes en ce moment dans un moment de skepsis qui a été induit par cette aporéticité, mais il ne faut plus demeurer dans cette aporéticité. Il y va de l'avenir du genre humain. Sixième point, cette intelligence dont je parle ici n'est évidemment pas déterminante, au sens kantien du terme. Je veux dire donc que cette intelligence n'est pas de l'ordre d'une mathésis universalis. Elle n'est pas de l'ordre d'une maîtrise, autrement dit. Une telle intelligence est, dans une certaine mesure, l'intelligence du marin face à la mer. Et puis du marin sur la mer. Du marin qui regarde la mer, et puis du marin qui dit « je vais sur la mer ». Ou encore du chasseur derrière le gibier, ou de l'agriculteur devant les éléments et le vivant. Pour autant, cette intelligence n'est pas la métisse des Grecs. Ce n'est pas simplement la ruse qui est une forme de cause efficiente, une intelligence des causes efficientes. Cette intelligence est au contraire une intelligence des fins, des causes finales, c'est-à-dire des motifs. C'est une sorte de sophrosyné. Autrement dit, je remobilise Aristote, comme je le fais depuis quelques années maintenant. Ce qui signifie que c'est une intelligence du désir, et tout aussi bien de l'indésirable, car on ne peut pas avoir une intelligence du désir sans avoir une intelligence de l'indésirable. Tout comme Héraclite dit, on ne peut pas avoir une intelligence de la justice si on ne connaît pas l'injuste, si on n'a pas fait l'expérience de l'injuste. Une telle intelligence peut être cultivée, soignée, développée, et ce développement, ce soin, cette culture sont toujours déjà techniques. Je pense que c'est ça le point de départ de cette intelligence, que de poser que ce soit cette culture et ce développement de l'intelligence sont toujours déjà techniques. Et je dirais que je crois que c'est un point de vue que nous partageons, enfin que nous avons en commun, Pierre Damien et moi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais proposer qu'on travaille ensemble sur ce sujet quant à cette question. Alors, ceci constitue ce que j'ai appelé depuis maintenant plus de 15 ans le problème du double redoublement épochal. Je veux dire par là que la modernisation a conduit à un déploiement de différentes couches sur lesquelles je vais revenir maintenant, et que ces couches sont arrivées à un moment donné de blocage où le redoublement, ce que j'appelle le redoublement épochal technique, une technique arrive qui bouleverse ce dont Pierre Damien a parlé dès le premier séminaire, qui bouleverse une situation et qui épocalise cette situation, c'est-à-dire qui suspend, qui interrompt un état de fait social, psychique, politique, juridique, etc., historique. En principe, pour qu'une civilisation se produise, il faut que cette épocalité technique soit redoublée par une nouvelle épocalité, qu'on pourrait appeler une épocalité de l'esprit, et qui fait époque au sens propre, c'est-à-dire qui forme une intelligence, précisément, du premier redoublement épocal et que le deuxième redoublement épocal, et à ce moment-là, ça se constitue comme un savoir philosophique, un savoir religieux, un savoir politique, un savoir artistique, etc., qui, finalement, individue collectivement, transindividue spirituellement, cette individuation technique. Toujours dans un retard, car je pense avec Bertrand Gilles, que ces processus se font toujours dans un retard relatif que Bertrand Gilles appelle le désajustement. À présent, la question qui se pose, et dont Pierre Damien a parlé, c'est un blocage du double redoublement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire le redoublement du redoublement. Et donc, nous sommes confrontés à l'impossibilité d'affirmer une modernité face à un processus de modernisation qui se déroule par ailleurs, sans nous. Je pose donc que une nouvelle intelligence et un double redoublement épocal doivent se produire par une intelligence des techniques même et par le fait qu'en tant que nouvelle intelligence, elle doit mettre la technique au principe même de l'intelligence, et non pas comme son dehors ou son hétéronomie, mais comme son origine, comme donc la question de l'intelligence, comme la fin de l'intelligence, le moyen de l'intelligence et le milieu de l'intelligence. Et tout ceci, je viens d'employer le mot milieu, passant par le concept de milieu associé que j'ai développé récemment en référence à Gilbert Simondon et en essayant de montrer que le problème de la modernisation industrielle, c'est qu'elle produit de la dissociation dans les milieux associés et que la question se pose aujourd'hui de reconstituer des milieux associés à partir de ce processus de dissociation. Il s'agit donc de dépasser un processus de dissociation. Voilà, ce sont les attendus de mon intervention. Maintenant, j'ai développé ma thèse. Si l'on dit que la modernité même si en fait il n'y a que des modernités. C'est dans son unité ce qui grosso modo correspond au processus de désenchantement, tel que Max Weber l'a défini. Et c'est ça ma thèse fondamentale. Je pense que, je parlais tout à l'heure de la French Theory, je pense que ni chez Foucault, ni chez Deleuze, ni chez Derrida, ni chez Lyotard, on ne trouve des analyses de Max Weber. On ne prend en compte les analyses de Max Weber. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien chez Deleuze et chez Foucault sur Max Weber. J'en suis pas sûr parce que je n'ai pas tout lu. Mais moi, je n'ai jamais rien lu chez eux sur Max Weber. Et en tout cas, Lyotard et Derrida, je connais bien, il n'y a rien. Et je pense que Max Weber est un point de vue absolument majeur sur la question de la modernité, pensée non pas comme époque, mais comme processus. Et d'autre part, je crois que nous devons constater que ce processus de désenchantement qu'a décrit Weber et qu'il fait apparaître au XVIIIe siècle, et il y aurait à discuter de ces datations, mais c'est certain que le processus se déclare au XVIIIe siècle en tant que tel. Ça, je suis d'accord avec Max Weber. Après, on pourrait discuter sur... Je vais y revenir. Parce que le désenchantement, c'est en fait la concrétisation sociale de la grammatisation. Donc, je vais vous proposer un concept qui va consister à dire, pour penser le processus de désenchantement, il faut penser le processus de grammatisation qui est sous-jacent au désenchantement. Cela étant dit, donc, reprenant à mon compte l'idée que la modernisation... c'est un processus de désenchantement. Je crois que nous devons constater, quant à nous, les hommes et les femmes du début du XXIe siècle, que ce processus de désenchantement est arrivé à son terme. S'il est vrai que le processus de désenchantement tel que l'a décrit Weber, c'est un processus qui toujours réenchante ce qu'il désenchante. Alors, il réenchante relativement ce qu'il désenchante absolument. Qu'est-ce que c'est que le désenchantement absolu? C'est la mort de Dieu. Ce que décrit Max Weber, et c'est très clair quand il parle de l'entrepreneur de Pennsylvanie, il dit « Il est inéluctable que cet entrepreneur substitue à la croyance, c'est-à-dire à la foi, la confiance. » Et que donc, à un moment donné, il se débarrasse de la religion. Il dit « La religion m'emmerde, ça me complique la vie, finalement je suis un capitaliste, je dois m'en passer. » Mais il réenchante à chaque fois. Il réenchante avec l'enchantement du produit du marché, avec l'enchantement du progrès, avec... Il y a toujours du réenchantement. Sinon, il n'y aurait pas de crédit. Il faut que le désenchantement du monde soit capable de reproduire un substitut d'enchantement. Et ce substitut, à un moment donné, c'est Hollywood, ou... etc. Qu'est-ce que dit Jean-François Lyotard lorsqu'il pose, en 1979, la fin des grands récits? Il annonce la fin de ce désenchantement relatif, de ce réenchantement, pardon, relatif. Il dit maintenant, c'est pas relatif, c'est absolu. C'est un désenchantement absolu. Et il n'y a pas de réenchantement relatif. Il n'y aura plus de réenchantement. Plus de grands récits, plus de libération, plus de d'autres légitimités que celle d'une calculabilité totale. C'est ça que décrit la condition postmoderne. Et ça, c'est formidable qu'il ait posé ce problème. Maintenant, c'est formidable qu'il l'ait posé, mais je pense que nous devons nous poser le problème de l'insuffisance de la manière dont il l'a posé. Alors, ce processus de désenchantement accompli, arrivé à son terme, c'est ce qui se pose en termes de fin de la maîtrise et fin de la puissance du savoir, qui tout à coup... Alors, qu'est-ce que c'est que l'époque de la maîtrise, d'abord? La maîtrise, c'est la première époque, je dirais, de la modernité, avant même la modernité déclarée comme société industrielle. La maîtrise, c'est le XVIIe siècle. Le discours du XVIIe siècle. La couche de l'appel philosophique de la modernité. Tout à coup, cette maîtrise qui se déploie au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, à travers Descartes, Leibniz, Newton, enfin bref, toutes ces avancées de la mathésis universalis, et puis Diderot, et puis finalement, ce qui conduit à la fin du XVIIIe siècle à une révélation de la technique d'ailleurs, ce se produit comme puissance de transformation et de transformation de la nature au XIXe siècle et devient cette puissance du savoir. Et non seulement cette puissance du savoir, mais une puissance de transformation, donc non seulement de la nature, mais de la société et finalement de l'homme. Ça, c'est le XIXe siècle. Qui va donner ce que Foucault, dans Les mots et les choses, va décrire comme l'apparition des sciences de l'homme, c'est-à-dire l'interrogation sur le langage, sur le travail, sur la biologie et toutes ces choses. C'est pour ça qu'on dit que Descartes est le premier philosophe moderne qui pose un sujet qui maîtrise l'objectivation du réel, et donc le calcul, et qui dès lors peut transformer ce réel et mettre le savoir au service d'un pouvoir transformateur de la nature. Mais ça, c'est ce que Descartes pose en principe, et en objectif même de son ontologie. Mais ça ne va se concrétiser qu'avec la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, deux siècles après Descartes. Et avec ce qui va se révéler comme étant le progrès, qui va d'ailleurs se poser comme un progrès tout aussi bien social que technique et scientifique. Et qui donc va dépasser fondamentalement la question de la nature. Et c'est ce qui va finalement conduire dans un troisième temps, au capitalisme consumériste, devenant ce qui va progressivement substituer à cette société du progrès, qui est une société disciplinaire, la société de contrôle, qui va se révéler comme telle au moment, précisément, Deleuze parle de société de contrôle, à peu près au moment où Lyotard parle, enfin un petit peu après, à vrai dire, après le moment où Lyotard va parler de société postmoderne. Et pour moi, le postmoderne, c'est une époque de la modernité. C'est pas du tout la sortie de la modernité. C'est l'époque du contrôle, de la modernité comme société de contrôle. Avec ce fait, dont j'espère qu'il sera un des éléments importants de la discussion du colloque de l'octobre prochain, que Lyotard croit à tort que cette société de contrôle est une société post-industrielle. Et moi, évidemment, je soutiens l'idée que cette société est une société hyper-industrielle et pas du tout post-industrielle. Et qu'il y a du coup une question sur qu'est-ce qu'on appelle l'industrie. L'industrie, c'est une question dont j'espère qu'on rediscutera dans le séminaire, ici. Il faudrait en donner une définition. Je ne connais pas aujourd'hui de définition rigoureuse et sérieuse de ce que c'est que l'industrie. Un colloque se prépare, c'est une très très bonne nouvelle, autour de Pérou, François Pérou, Saint-Simon, toute cette tradition du discours sur l'industrie, c'est un colloque qui aura lieu en 2008, et je pense que c'est une très bonne chose, et qui parle là aussi de l'idée qu'en fait nous vivons une nouvelle époque industrielle, et non pas du tout un âge post-industriel. Quoi qu'il en soit, cet âge, qui ne serait donc pas post-industriel, mais hyper-industriel, c'est celui qui fait apparaître un sentiment de l'impuissance. Et une nouvelle expérience qui est l'expérience du non-savoir et d'une expérience paradoxale du non-savoir. Puisque nous sommes dans une société où les savoirs sont hyper développés et dans tous les domaines, puisque maintenant on a des savoirs absolument sur tout, systématiquement, on transforme en savoir toutes les formes d'expérience, quelles qu'elles puissent être, puisqu'on les formalise, comme je dirais tout à l'heure, on les grammatise. Formaliser veut dire grammatiser. Et en même temps, cette multiplication des savoirs produit une nouvelle expérience du non-savoir, c'est-à-dire le moment de ce que dans un langage hegeliano-heideggerien, on appellerait une skepsis historiale. Skepsis étant grec hegelien et historial étant heideggerien, c'est-à-dire une skepsis reproduisant une épocalité. Je redis une chose que j'avais dite ici et que j'ai dite tout à l'heure, cet état de fait de l'impuissance est intolérable. Il est intolérable, et non seulement il est intolérable, mais il peut devenir pour moi scandaleux s'il conduit non seulement à l'expérience de l'impuissance, mais au renoncement à lutter contre l'impuissance. Même si ne pas vouloir renoncer à lutter contre l'impuissance risque dans la volonté de lutter contre l'impuissance, de conduire à la dénégation de ce qui s'est révélé à la fin de ce processus de désenchantement, à savoir l'expérience de l'impuissance. La plus grande catastrophe qui pourrait advenir dans cette situation, ce serait de produire une dénégation de cette expérience. Et évidemment, beaucoup de gens sont tentés de cela. Mais je ne donnerai pas de nom propre parce que je constate qu'il y en a de moins en moins et que des gens que je voyais il y a encore peu de temps clamaient, mais non, il n'y a pas d'impuissance, etc. Des gens très connus en épistémologie, en philosophie des sciences, etc., commencent à faire vraiment marche arrière. À dire oui, peut-être qu'en effet, on est vraiment en train de faire l'expérience de l'impuissance. Expérience de l'impuissance dont il faut produire le sens. Sens de cette expérience d'impuissance et qui est aussi une expérience du non-sens. C'est ça toute la difficulté. Telles seraient les questions apportées par la fin du processus de désenchantement et qui est le blocage effrayant de ce processus. La modernité, cela étant, ou les modernités, et ce qui agence les modernités, c'est un processus avant toute chose. C'est le processus d'une transformation telle qu'elle est consciente d'être une transformation. Je pense que de la transformation, il y en a depuis l'origine de l'univers. L'univers est en expansion depuis son origine, donc il est en transformation. Cette transformation, c'est d'ailleurs ce qui produit de la matière. À un moment donné, cette transformation devient négentropique, ça devient la transformation du vivant, ça s'appelle le buissonnement de la différenciation spécifique chez Darwin, puis cette transformation devient technique à travers l'être humain, mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'être humain n'a pas la conscience de cette transformation. Je ne parle pas des philosophes ou des princes, je parle de l'homme de la rue, ou plutôt de l'homme de la plaine, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de rue. L'homme de la rue est à 2% de la population dans les rues. 98% de la population est dans les champs. Et cette population n'a aucune conscience de transformation. Comme on dirait dans un langage de classe de terminale, il n'a pas de conscience historique. La modernité au sens strict ou au sens fort, c'est ce qui tout à coup fait que cette conscience de transformation s'impose à quiconque appartient à cette société et que celui qui n'en a pas la conscience devient une exception. Le berger qui est dans ses montagnes, l'Indien encore protégé de l'Amazonie que va voir l'anthropologue ou l'ethnographe, etc., etc. Ou encore les grands-mères dans la Dordogne qui... Bon. Mais ça devient une exception. Tout à coup, la transformation se pense et se revendique elle-même comme telle pour tous. Mais à présent... Alors, pendant longtemps, cette transformation qui se revendique elle-même comme telle pour tous, qui s'appelle socialisme, qui s'appelle utopie des Saint-Simoniens, qui s'appelle tout ce que vous voulez, qui s'appelle progrès, émancipation, grand récit, comme dit Lyotard. Et tout le monde est pris dans ces grands récits, y compris le grand récit de l'antimodernité, car il y a un grand récit de l'antimodernité. Contrairement à ce que croiraient des esprits un peu trop pressés. Tout à coup, et c'est maintenant, ça se vit, cette transformation, non plus comme un progrès, un processus d'émancipation, mais comme une déformation, comme une distorsion, comme le risque d'une malformation, comme une tératologie, comme une monstruosité. Et c'est exactement comme ça que commence De la grammatologie de Jacques Derrida. Donc je rends ici hommage, je les critique, vous avez bien compris, mais je rends hommage à Lyotard et à Derrida. Lyotard, en 79, dans La condition postmoderne, qui dit « c'est la fin du désenchantement », même s'il ne parle jamais de Max Weber. Et Derrida, qui dit en 68, c'est 68 la grammatologie, 67, c'est un peu avant, 67, ouais. Qui dit en 67, ce dont je vais vous parler dans ce livre ne peut se présenter que sous les auspices de la monstruosité. Donc la modernité, ou la modernisation plutôt, a des époques, et je dirais que ces époques qui sont nombreuses et multiples et en couches, comporte deux grandes périodes, qui sont celles, premièrement, de la maîtrise, avec la pré-modernité, la maîtrise cartésienne. Enfin, je dis pré-modernité, c'est une modernité, mais c'est avant la modernité au sens fort. Et puis, la modernité, je dirais, de l'époque de ce que j'ai appelé ailleurs la consommation heureuse, qui est une modernité heureuse. C'est une modernisation heureuse. On y va, la fleur au fusil, en disant, on battra le capital, on battra les réactionnaires ou les archaïsants du communiste, mais de toute façon on y va, la modernité est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la modernité. Et puis il y a une nouvelle époque de la modernité dans laquelle nous vivons depuis en réalité les années 70, c'est pas pour rien que la grammatologie sort en 67, que Lyotard écrit en 69, en 79, et que Deleuze développe la théorie des sociétés, enfin pas la théorie, mais la thématique des sociétés de contrôle dans les années 80. Appelons ça l'époque de l'impuissance, de la fin des grands récits, l'époque postmoderne de la modernité. Moi, j'essaye de faire croire, performativement, qu'il nous faut attaquer une troisième époque, et que l'époque postmoderne de la modernité aura été une époque charnière, où il faut réaffirmer une nouvelle époque, ultra-moderne, hyper-industrielle, je ne sais pas quoi, mais une époque combative, où il ne s'agit pas d'être ni dans la modernité heureuse et un peu aveugle, ni dans la soumission à l'impuissance, mais dans une nouvelle condition, une nouvelle skepsis, qui reconstitue une philosophie comme lutte, comme combat et comme action. L'importance de Deleuze, Derrida, Lyotard, en particulier Foucault à certains égards, a été à mon avis beaucoup plus loin que eux dans ces questions. C'est d'avoir théorisé cette impuissance et cet acquis est fondamental. Chez Deleuze, ça passe par la théorie de la bêtise transcendantale, par exemple. Mais leur limite, c'est qu'à un moment donné, ça ne peut pas faire une philosophie de l'action. Même s'ils luttent aussi contre cette philosophie de l'inaction, qu'est, d'une certaine manière, la fascination de la Gelassenheit, c'est-à-dire la dernière période de Heidegger, le laisser-être du Gestell, que je combats. Que je combats. Si vous m'avez bien compris, tout ce que je viens de dire signifie que le colloque sur la modernité, ou les modernités, postmodernité, hypermodernité et antimodernité, serait une explication avec la postmodernité et avec le poststructuralisme. Et ce, dans la mesure où ils appartiennent aussi à l'histoire du Centre Georges Pompidou. Je tiens à le signaler, parce que je vais recontextualiser ce colloque au Centre Georges Pompidou, qui aurait été, en tant que temple de la modernité, le principal lieu de naissance de la postmodernité, en tout cas en France, et qui aurait été aussi un élément très important du contexte français de ce qu'on a appelé la déconstruction. Beaucoup, beaucoup des penseurs de la déconstruction parlaient ici dans les années 80, au Centre Georges Pompidou, et étaient très bien accueillis. Avec donc ce paradoxe que le Centre Pompidou avait été constitué pour affirmer la modernité, une modernité qui est très encore inspirée de la maîtrise, une modernité gaullienne, une modernité malrosienne, qui passe aussi par le passage du Malraux au Parti communiste, etc. Hein, donc, qui croit encore dans le progrès, etc. Bon, et que c'est ça qui a engendré, et ça c'est très très intéressant, qui a engendré finalement cette charnière d'entrée dans le sentiment de l'impuissance. Mais par ailleurs, je souhaite que ce colloque fasse droit au fait que Ulrich Beck écrivait sa Société du risque au moment où Jean-François Lyotard fermait les portes des immatériaux. En effet, les immatériaux, c'est 85, Ulrich Beck, c'est 86. Et je crois que Ulrich Beck, qui est très peu commenté en France, à part par Bruno Latour, dans un sens intéressant, mais à mon avis partiel, je ne sais pas si aux États-Unis on parle d'Ulrich Beck. Beck, Ulrich Beck, on en parle aux États-Unis? Beck. Non, je ne connais même pas. Ulrich Beck, qui est un philosophe allemand, sociologue, mais sociologue de l'origine weberienne, un héritier de Max Weber, a écrit un livre qui s'appelle « La société du risque ». Et il a posé dans ce livre des questions que je crois extrêmement intéressantes. Contre la version postmoderne de cette question, en particulier il a posé le caractère structurellement catastrophique de la modernité, il a nécessité de développer ce qu'il appelle une modernité réflexive, c'est-à-dire ce qu'il appelle une autre modernité. Il l'a fait dans une très grande agressivité à l'égard de la pensée postmoderne, une agressivité très injuste, mais en même temps, du coup, il n'a pas été lu ici en France, pratiquement pas. Et il pose des questions qui, à mon avis, aujourd'hui, au début du XXe siècle, il y a plus de 20 ans après, s'avèrent d'une extrême lucidité, d'une extrême nécessité. Même si la politique qui est portée par Ulrich Beck, ou par le discours d'Ulrich Beck, est extrêmement problématique et a été la base de la philosophie de Tony Blair, de la politique de Tony Blair. Puisque Ulrich Beck, c'est la référence de Anthony Giddens, et Giddens, c'est l'inspirateur de Tony Blair. Mais je vous signale que c'est ce qui est en train de nous venir ici maintenant, via Ségolène Royal. Donc la question est d'une très grande actualité, et il faut la regarder de très près. Il y a intérêt à affûter nos couteaux, puisqu'il s'agit de faire de la philosophie combative. Au-delà, il y a une question de la place des sciences de l'homme et de la société et de la philosophie aujourd'hui dans leur rapport à l'industrie et donc aux sciences, aux techniques et aux technologies. Je veux dire par là que les sciences de l'homme et de la société et la philosophie se sont constituées historiquement dans une théorie des facultés et une organisation des facultés allemandes et françaises qui a conduit à une catastrophique division intellectuelle du travail qui fait qu'aujourd'hui, les philosophes, les sociologues, les psychologues, etc., sont totalement largués quant aux questions scientifiques et industrielles, et que cette situation devient absolument intenable. Parce qu'à l'inverse, les physiciens, les nanostructurants, etc., ne connaissent rien à la philosophie. Et donc sont totalement démunis de la possibilité de faire quelque chose de leur scepticisme. La postmodernité, c'est une époque de la modernité, mais telle que peut-être elle commence à sentir venir la fin du processus de désenchantement. Donc, c'est-à-dire quel est l'accomplissement du désenchantement en tant que tel. La conséquence de ce que je vous dis là, c'est que la modernité, puisque la modernité serait ce processus de désenchantement, c'est ce processus qui passe aussi bien par Luther que par Descartes. Qui passe aussi bien par Max Weber que par Karl Marx. Et que c'est à partir aussi bien de cette source luthérienne et weberienne qu'à partir de la source cartésienne ou marxienne qu'il faut penser le problème de la calculabilité. Car tous pensent à la calculabilité. Marx définit très clairement l'industrie comme la calculabilité du temps de travail. C'est ça, l'industrie. Il faut que le temps de travail devienne calculable. Ce qu'a très bien montré Daniel Ben Saïd. Mais Max Weber montre que la calculabilité n'est pas simplement celle du temps de travail. C'est la calculabilité de l'investissement et du marché. C'est ça que développe Max Weber, que ne développe absolument pas Marx. L'erreur du heideggerianisme, par ailleurs, mais aussi du postmodernisme de Lyotard, qui reprend en partie cette erreur au heideggerianisme, d'ailleurs, et aujourd'hui encore de ce que j'appellerais le postmodernisme vulgaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la société postmoderne, un peu comme Lipovetsky peut parler de tout ça, c'est précisément de ne pas comprendre que seul le calcul donne accès à l'incalculable, c'est-à-dire à l'objet du désir. C'est ce qui conduit, par exemple, Jean-François Lyotard, ici même d'ailleurs, je dis ici même parce que c'est à l'IRCAM qu'il l'a déclaré dans un colloque que j'ai organisé où il est venu, à parler de télégraphie. Et à dire, l'écriture en tant que calcul appliqué au langage, ça produit de la télégraphie, c'est-à-dire finalement des sciences de la... Et ça, très proche du discours de Heidegger dans langue technique, langue de tradition, où Heidegger dit la langue technique c'est la langue du télégraphe, du morse, on ne peut rien faire avec ça, il n'y a aucune poéticité possible là-dedans, la seule langue qui mérite d'être parlée c'est la langue orale, ce qui est catastrophique. Je disais seul le calcul donne accès à l'incalculable, c'est-à-dire à l'objet du désir. Mais alors qu'est-ce que c'est que l'objet du désir? Eh bien si nous voulons y réfléchir, nous devons poser que d'autre part le désenchantement c'est la mort de Dieu, c'est-à-dire d'un certain objet du désir. Et qu'on ne peut pas poser la question de la modernité sans poser la question du religieux et de l'organisation religieuse et théologique de la pensée. L'accomplissement du désenchantement, c'est la mort effective de Dieu. Dieu est mort, c'est tout à fait vrai au début du XIXe siècle, c'est Hegel qui le dit le tout premier, mais il bouge encore pendant 2 siècles. Il bouge beaucoup, en tant que communisme, en tant que tout ce que vous voulez. Maintenant, il est vraiment mort. Il ne bouge plus du tout. Il est vraiment naze. Et du coup, il y a des ayatollahs partout, il y a des Bush partout, il y a des Ben Laden partout. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il est vraiment mort, son fantôme peut revenir. Puisque c'est toujours ça, la mort d'un père, Dieu c'est Dieu le Père, Dieu c'est l'objet du désir en tant que le Père est un objet du désir, et donc maintenant qu'il est mort, il revient. Donc nous vivons le problème du retour de Dieu comme fantôme. Et c'est d'ailleurs tout le sens de l'anthologie, anthologie au sens de Derrida. Lorsque Derrida a dit « l'avenir est au fantôme », c'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire « l'avenir est au retour du refoulé théologique qui a été détruit par la fin du processus de désenchantement ». Évidemment, je traduis dans mon langage qui passe par Max Weber. Mais je pense que Derrida, là pour le coup, serait d'accord avec cette version de son interprétation. Alors, qu'est-ce que veut dire que Dieu aura été l'objet du désir ? Eh bien, ça veut dire que pendant 2500 ans, ce qui aura constitué le noétique, le nous, l'esprit ou l'intellect, c'est une communauté de désir de tous les êtres désirants qu'on appelle le katholou, l'universel, et que Aristote appelle le théos. Et que c'est à partir de cette affirmation d'un objet du désir commun à toutes les âmes noétiques qu'ont pu se développer des versions judéo-grecques, chrétiennes, protestantes, et finalement capitalistes, bourgeoises, néo-je-sais-pas-quoi, d'une sublimation de ce désir qui produisait ce réenchantement relatif après la mort de Dieu qui faisait que le cadavre de Dieu bougeait encore. Et c'est uniquement à partir de là qu'il était possible d'universaliser. Lorsque Gilles Deleuze écrit que désormais il faut passer de la question de l'universel à celle du singulier, et que dans le même temps il dit nous ne pouvons plus être chrétiens, mais nous sommes chrétiens. C'est de ça dont il s'agit. Par conséquent, si nous voulons penser ce processus complexe de désenchantement, de réenchantement relatif, et puis finalement d'impuissance constatée où le cadavre ne bouge plus, il faut penser la modernité comme une économie libidinale. La modernité, c'est une économie libidinale. Toute société humaine est une économie libidinale. Mais c'est une économie libidinale qui ne cesse de se transformer par une organisation sans cesse renouvelée et une réorganisation permanente de l'investissement. Sachant que l'investissement, si on en parle après Freud, c'est forcément l'investissement dans l'objet du désir. Il n'y a d'investissement possible que du désir. Seul le désir peut s'investir. Il peut s'investir via de l'argent, via des francs, via des euros, via des dollars, via des yens. Il peut s'investir via des séances de psychanalyse, il peut s'investir via la sublimation dans les œuvres d'art et la vie d'une exposition, via l'amour filial, via tout ce que vous voulez. Il a des tas de manières de s'investir, mais il s'investit. Oh, c'est pas vrai, je suis désolé. Et la modernité, ou la modernisation, c'est ce qui ne cesse de produire de la réorganisation de cet investissement par la calculabilité. C'est-à-dire qu'il fait des calculs sur les objets du désir. Mais que devient le désir sans Dieu ? Dieu qui commence à mourir au début du XIXe siècle. C'est ici qu'arrive la question du calcul, c'est-à-dire de la grammatisation. Puisque ce que je vais vous proposer maintenant, et je vais m'acheminer pas à la bourre vers ma fin, je ne vais pas pouvoir tout dire, c'est que la calculabilité, finalement, ça ne peut se penser qu'à travers la grammatisation. Grammatisation qui conduit à la question de l'appareil est tel que là, notamment posé Pierre Damien Vigue. Je cite souvent, quand je parle de la calculabilité, cette phrase de Paul Claudel, que je n'ai pas trouvée moi-même chez Claudel, parce que j'avoue, je ne suis pas un connaisseur de Claudel, et un grand passionné de Claudel, mais que j'ai trouvée chez Pierre Sauvanet, dans son travail sur le rythme, puisque Sauvanet a étudié la question du rythme chez Claudel, c'est cette fameuse phrase, « Il faut que le poème comporte un nombre qui empêche de compter ». Et je trouve ça magnifique. Parce que Claudel décrit le poème comme un calcul, très valérien de ce point de vue-là, et très proche de Valéry, mais c'est un calcul qui fait qu'on ne peut pas compter. On pourrait dire aussi que c'est Joycien d'ailleurs, jusqu'à une certaine manière. En tout cas, c'est très moderne. Je dirais que c'est très moderne, XXe siècle. C'est post-proustien. Moi, je crois que aujourd'hui, il s'agit de transformer ces énoncés et ces programmes littéraires du XXe siècle en programmes politiques au XXIe siècle. C'est ça qui m'intéresse, de faire une poétique qui devienne une politique. Ça, il y a des gens qui vont dire, ben ça c'est vraiment ringard, alors là vraiment, régression de la philosophie à travers Stiegler. Ben non, je ne crois pas du tout. Le cœur de la modernité, pour moi, n'est pas l'invention cartésienne du sujet. L'invention cartésienne du sujet, c'est une condition de la modernité. Le cœur, je dis bien le cœur de la modernité, c'est celle industrielle de la calculabilité appliquée à tous les processus par l'intermédiaire d'abord de la machine et ensuite de l'appareil. Et ceci est préparé par ce que Max Weber appelle les livres de compte. Les livres de compte qui permettent de produire des ratios au sens de la comptabilité. Puisque Max Weber dit la naissance du capitalisme, c'est d'abord l'invention de la comptabilité. Et cette comptabilité suppose l'imprimerie. Et une certaine diffusion de la pratique de l'imprimerie dans la société via le luthérianisme, c'est-à-dire la lecture quotidienne de la Bible, etc., etc. C'est comme ça que se pose le problème de la calculabilité chez Weber. Mais à un moment donné, ça se concrétise dans un développement de la machine-outil, puis de toutes sortes de formes de machines, puis d'appareils et de produits réalisés en série. Cette modernité industrielle n'est pas du tout terminée. Quoi qu'on puisse dire, Alain Touraine depuis la fin des années 60, dans son post-68-ardisme, Jean-François Lyotard qui reprend Touraine, malheureusement, et c'est ça la limite de Lyotard, et tout récemment Daniel Cohen dans ses leçons sur une société post-industrielle, qui à mon avis ne comprennent absolument pas ce qui est en jeu. Nous ne sommes pas du tout dans une société post-industrielle, mais dans une société hyper-industrielle, puisque la grammatisation, qui est l'application de la calculabilité à tous les régimes de la vie, s'étend désormais à tout, y compris les nanostructures des organismes atomiquement modifiés. Le postmodernisme, c'est une réaction à l'impuissance que suscite le devenir hyper-industriel, qui liquide non seulement la figure du sujet, ce qui relève de ce que Derrida appelait une déconstruction objective, mais bien tous les processus de subjectivation, si je parle dans la langue de Michel Foucault, mais moi je préfère ne parler de processus d'individuation. Je crois que ce concept d'individuation est beaucoup plus rigoureux que celui de subjectivation chez Foucault. Ici, il ne s'agit plus simplement de déconstruction objective, comme disait Derrida, lorsqu'il disait « est-ce que je déconstruis ?» Ce n'est que l'analyse des déconstructions qui sont produites par le déploiement, de la technique, etc., de la société moderne. Il s'agit de, non pas de déconstruction objective, mais de destruction objective. Il s'agit de décomposition et de combat entre des tendances qui, en se décomposant, conduisent à ce que j'appelle la désindividuation et la désymbolisation. Et c'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, le règne du nihilisme, ou la croissance du désert. Or, ce processus de liquidation des processus d'individuation, c'est ce qui ne peut que conduire à la liquidation radicale du surmoi. Et là, il faudrait convoquer, bien sûr, Marcuse, parce que c'est le seul à avoir posé ce problème. Peut-être pas très bien posé, mais il l'a certainement posé. Liquidation du surmoi qui est une liquidation de la bourgeoisie et qui rend tout à coup sensible, eh bien que le capitalisme, ça n'est pas la bourgeoisie. Tout comme d'ailleurs le prolétariat n'est pas la classe ouvrière. Il n'y a plus de classe ouvrière, mais il y a toujours un prolétariat. Il n'y a plus de bourgeoisie, mais il y a plus que jamais un capitalisme. Donc ces amodiations qu'on avait faites, ou ces ajustements, ou ces synonymies qu'on avait posées entre capitalisme et bourgeoisie, classe ouvrière et prolétariat, s'avèrent absolument fausses, et ça c'est une limite du marxisme. Mais c'est un très gros problème pour nous. Parce qu'un capitalisme qui n'est plus une bourgeoisie, c'est un capitalisme qui conduit à ce que j'appellerais une modernité de la terreur. Je veux dire par là que un capitalisme qui n'a plus de relation à la bourgeoisie, c'est un capitalisme qui n'a plus de surmoi, qui n'a donc plus aucune limite à ses investissements, y compris quand ils sont producteurs d'un désinvestissement massif, car la désindividuation produit du désinvestissement. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette espèce d'antithèse de ce que j'appelle une modernité de la terreur, ou une terreur moderne, ou une modernité terrorisée, ce qui paraît antithétique parce que pendant très longtemps on a dit modernité veut dire lumière. C'est une espèce de synonymie là aussi, tout comme on dit prolétariat égale classe ouvrière, capitalisme égale bourgeoisie, modernité égale rationalité, donc lumière, donc esprit des lumières, donc émancipation de la religion, etc., etc. Mais on n'est pas du tout dans un esprit des lumières. On est dans un désenchantement de l'accomplissement qui produit une terreur moderne, y compris la terreur moderne au sens où l'armée américaine est ultra-moderne, l'armée d'Israël est ultra-moderne, mais aussi les terroristes du Fatah ou de l'islamisme, ou de je ne sais quoi, sont des terroristes très modernes, des terroristes de la bombe atomique, des terroristes des armes de destruction massive, des terroristes de la guerre biologique, etc., etc. Tout ça s'est engendré par un processus que donc j'appelle la grammatisation. Et je vais essayer de m'acheminer vers ma conclusion en parlant de la grammatisation. Mais avant de développer ce que c'est que la grammatisation, je poserai que le désenchantement comme socialisation de la grammatisation, c'est-à-dire de la discrétisation des flux, de la transformation en objet manipulable, formalisable, échangeable, abstrait, de tous les flux, c'est-à-dire de toutes les continuités, c'est ce qui, lorsque ça va être approprié par la philosophie, ce qui va être pensé par exemple chez Leibniz comme caractéristique universelle, par l'entrepreneur de Pennsylvanie qu'analyse Max Weber, par la décomposition du temps du travail qu'analyse Marx, etc., etc. C'est ce qui va conduire à l'intégration de l'ostium dans le négocium. Alors là, tout à coup, je fais apparaître cette question de l'ostium. Qu'est-ce que c'est que l'ostium ? L'ostium, c'est ce qui est la forme achevé de la sublimation. Et de la sublimation en tant qu'elle donne la science, le droit, la philosophie, les arts libéraux, etc., etc. Et le clergé en général, les clercs aussi bien laïcs d'ailleurs que réguliers. Les clercs religieux ou ensuite les clercs de la République, c'est-à-dire les hommes politiques, qui sont des clercs. Ou les universitaires, qui sont des clercs. La modernité, c'est ce qui va progressivement faire que ces clercs qui produisent des savoirs qui sont en principe voués à Dieu, voués au droit canon, comme dirait Pierre Legendre, voués au beau, voués au somptuaire, comme dirait Georges Bataille, etc., etc., eh bien ces clercs progressivement vont produire des savoirs qui vont se soumettre aux contraintes de la production, c'est-à-dire au négocium. Puisque la production, en latin, ça se dit le négocium. Au sens où le négocium, c'est ce qui nie l'ossium, c'est-à-dire ce qui peut être réduit à un calcul. L'ossium, c'est ce qui est intrinsèquement en excès sur toute calculabilité. Les objets de l'ossium dépassent toute calculabilité. Et ils sont structurellement ce qui doit faire l'objet de pratiques. Pratique de la géométrie pour accéder aux intuitions géométriques, telles que par exemple Husserl en parle dans la crise des sciences européennes. Pratique de la poésie qu'il faut pratiquer tous les jours, ou de la musique pour pouvoir entendre les muses, accéder aux muses, etc., etc. Pratique que sont les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, qui dit il faut tous les jours, ou que Pascal décrit dans ses fameuses questions de la pratique du chapelet, c'est-à-dire la foi mécanique, la foi automatique. Qui dépasse l'entendement, toujours. Eh bien, à un moment donné, c'est ce que décrit Max Weber, cet ossium qui dépasse l'entendement va progressivement être mis au service d'une nouvelle organisation de la production, et ça va donner, précisément, ce qu'il va d'abord appeler l'éthique protestante, qui est à la base de l'esprit du capitalisme, et finalement ce processus de désenchantement qui se produit à travers la grammatisation. La grammatisation qui est elle-même le fait de progressivement rendre objectivable, manipulable, automatisable, finalement tous les éléments qui sont au départ les éléments de l'osium. Et c'est en ce sens-là aussi que Lyotard est très important, c'est qu'il aura été l'un des premiers à penser les logos, ce qu'il appelle dans la condition postmoderne les logotechniques, c'est-à-dire la convergence du langage et de la technique. Mais le problème, c'est qu'il très vite, il va en venir au discours heideggerien dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'il va dire c'est ce qui conduit à la télégraphie, c'est-à-dire à la destruction du langage, à la destruction de la pensée, etc. Ce qui me paraît être une catastrophe. Alors, je vais venir vers la grammatisation maintenant, mais je voudrais, pour expliquer quand même mon titre, je ne vais pas faire l'impasse sur ce petit paragraphe nouveau maintenant que je voudrais développer, à savoir que il faut penser la modernité par couches, et donc les modernités, à travers un processus qui accouche sans cesse d'une nouvelle modernité, dans des points, dans des versions extrêmement, Heidegger aurait dit des guises extrêmement variées. Il y a d'abord la modernité des historiens, et si on écoute Le Goff, eh bien, pour Le Goff, cette couche historienne de la modernité, elle commence au Moyen-Âge. Elle ne commence pas du tout avec Descartes, ni même avec les humanistes. Elle commence au Moyen-Âge. Elle commence avec l'engrenage. Elle commence avec ces nouvelles techniques de calcul qui se déploient dès le XIIIe siècle. Et évidemment, elle crée les conditions de l'humanisme qui va se développer ensuite, qui est une deuxième couche historique de la modernité. Il y a par ailleurs la modernité philosophique, qui est une couche qui commence avec l'humanisme, mais qui se déclare comme telle, c'est-à-dire au sens fort, la modernité philosophique au sens fort, celle du XVIIe siècle. Ensuite, il y a ce que j'appelais tout à l'heure la modernité de l'homme ordinaire, du quidam. C'est celle de la société industrielle. C'est la modernité plénière, pleine et entière, qui se présente elle-même comme progrès et conscience globale et universellement partagée du progrès. Avec d'ailleurs tout un discours de l'universalisation, de la modernisation, exportation avec la colonisation vers les États-Unis, vers l'Asie, vers l'Afrique, etc., etc. Il y a bien entendu aussi une modernité économique dont j'aurais voulu vous parler, mais je n'en aurai pas le temps, malheureusement. J'aurais voulu vous en parler parce qu'on a tendance aujourd'hui à dire que la modernité, c'est le marché. La modernité économique égale le devenir marchand. C'est ce que décrit Polanyi. La grande transformation, c'est ça. Mais c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire qu'on pose que il y a une synonymie là aussi entre développement des technologies et développement du marché. Si le marché se développe, les technologies se développent réciproquement. Si les technologies se développent, le marché s'étend dans ses lois. Et c'est pas vrai du tout. Ça, c'est une couche bien particulière qu'on pourrait appeler la couche économico-libérale de la modernité. Et bien entendu, il y a une modernité technologique. Et pas simplement historique, philosophique, économique, etc. Et je dirais que cette modernité technologique, je lui accorde un privilège, non pas ontologique, mais un privilège dans le fait qu'elle doit devenir l'objet privilégié de notre pensée, parce que c'est elle qui constitue le processus de modernisation généralisée en tant qu'elle porte une grammatisation généralisée, en tant qu'elle permet de constituer une discrétisation généralisée des flux qui deviennent par là même calculables. Ça, c'est ce dont parle Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, par exemple. J'aurais eu le temps, j'aurais un peu commenté ces passages. Alors, je ne crois pas que nous sortions, quant à nous, de la modernité, pas plus que nous sortons de la société industrielle, mais nous vivons la fin du désenchantement et nous devons penser une nouvelle époque de la modernité. Et je crois qu'il faut la penser depuis la grammatisation. La grammatisation qui installe la modernité, ou la modernisation, principalement à partir du moment où apparaît l'imprimerie. C'est-à-dire qu'ici, je m'appuie fortement sur Sylvain Auroux. Donc je prends le mot grammatisation d'abord au sens étroit de Sylvain Auroux, Auroux montre que le deuxième stade de la, ce qu'il appelle la deuxième révolution technologique de la grammatisation, c'est l'apparition de l'imprimerie, telle qu'elle va permettre de déclencher tout un ensemble de processus où se retrouvent la colonisation, l'accumulation primitive de capital, les techniques de comptabilité dont parle Max Weber, les techniques des missionnaires jésuites pour la colonisation des esprits, etc. Enfin, tout cela devrait être décrit évidemment en détail, je n'ai pas du tout le temps de le faire. Mais je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental qui se joue et qui se poursuit bien au-delà, c'est là que je quitte Sylvain Auroux, du langage. Car la grammatisation, le concept d'Auroux est très enfermé dans une grammatisation linguistique, mais la grammatisation c'est bien plus que linguistique. La grammatisation c'est surtout, ce qu'il y a de très nouveau avec la modernisation, c'est surtout la grammatisation des corps. Et ça c'est ce que pense Karl Marx. Marx décrit, avec l'apparition de la machine-outil, la manière dont le geste du prolétaire va être grammatisé, rendu calculable, surveillable, contrôlable, etc., etc. Qui va donner la société disciplinaire de Foucault. Et puis Benjamin va décrire la grammatisation de la perception, de l'ouïe et de l'œil en particulier. Et ça va donner les enregistrements appareillés, au sens où Pierre Damien en a parlé plusieurs fois. Et c'est intrinsèquement lié à la grammatisation des corps. On va donc voir une grammatisation de la langue qui va organiser, je dirais, la conception industrielle, une grammatisation des corps qui va organiser la production industrielle, le prolétariat, etc. Et une grammatisation de la perception qui va organiser la consommation industrielle. Et c'est ça qui va conduire à l'accomplissement du désenchantement. La grammatisation, c'est une époque de ce que j'appelle l'organologie. J'essaye de développer depuis quelques années ce concept, c'est d'ailleurs ici même à l'IRCAM que j'ai commencé à travailler sur cette question, d'organologie générale, où j'essaye de montrer que pour penser ce qu'on appelle à tort ou à travers souvent l'humain, je dis à tort ou à travers parce que c'est pas tellement la question, l'humain, la question c'est le noétique, pas du tout pareil. Il faut penser organologiquement en articulant le devenir des organes de perception, de digestion, de pensée, etc., les organes vivants, des organes artificiels, les pharmacas, les techniques, etc., et les organisations sociales. Il y a un moment où apparaissent dans les organas, dans les pharmacas, des mnémotechniques, et ce sont ces mnémotechniques qui vont rendre possible progressivement la discrétisation des flux qui sont à l'origine de la grammatisation. Ces mnémotechniques, si on relit les textes de Février que commentait Derrida dans la grammatologie, arrivent très tôt. Février ou Leroy Gourhan. Dès il y a 40 000 ans, les incisions comme les encoches faites sur les os préhistoriques, etc., qui servent à, d'une manière ou d'une autre, à soutenir un processus de répétition, les shuringas, dont parle là aussi Laurent Gourin, sont des supports grammatiques de ce qu'il appelle, de ce que Laurent Gourin appelle des mythogrammes. Mais évidemment, à partir du néolithique, il y a une nouvelle époque de la grammatisation qui va mettre la grammatisation au cœur de l'organisation sociale et qui va donner ce qu'on appelle les grands empires, en particulier égyptiens et mésopotamiens, mais aussi chinois. C'est très important. Ne pas oublier que la Chine aussi développe cela. Et puis apparaît avec, en particulier, les Phéniciens, les Hébreux et les Grecs, une alphabétisation. Et c'est ça que Auroux appelle la première révolution technologique de la grammatisation. Parce que pour lui, c'est là que commence la grammatisation de la langue. Au sens où elle va permettre véritablement d'identifier dans le langage des catégories, de produire des grammaires, etc., etc. Et de véritablement manipuler cela, ce qui va donner une logique, une métaphysique, bref, la philosophie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela. Mais je dirais que tout ça est tout à fait vrai. Cette première révolution technologique de la grammatisation, c'est ce qui va porter à la fois la pensée grecque et le monothéisme occidental. Et c'est ce qui va donner à l'Occident sa puissance. La puissance qui va se mondialiser. Mais ensuite, il y a une deuxième révolution technologique de la grammatisation, qui est celle que décrit Auroux, au sens linguistique, mais également qui se prépare dans d'autres domaines que le linguistique. Et c'est là que la contribution de Le Goff sera sûrement importante, à savoir avec des techniques de discrétisation du mouvement cette fois-ci, en particulier à travers l'horloge, à travers l'engrenage qui va conduire à la grammatisation des gestes des travailleurs et finalement à tout ce que je décrivais tout à l'heure. Bon. C'est peut-être là-dessus que je vais m'arrêter, à vrai dire. J'aurais pas mal eu d'autres choses à développer, mais en même temps, si je le fais, je repars pour une demi-heure et je pense qu'il est temps que je m'arrête parce que j'ai beaucoup parlé et qu'on ait au moins trois quarts d'heure de discussion. Voilà. Alors, d'accord. J'ai pris le mot organa pour désigner les instruments et c'est synonyme de pharmaka dans ce sens-là. Mais peut-être qu'il vaut mieux ne pas utiliser des mots grecs ou latins. Et tout simplement dire en français que. Ça, ce sont des couches, non pas de la modernité, mais de l'organologie. Bon. Pour moi, il y a trois couches organologiques. Il y a les couches physiologiques, qui constituent le substrat corporel et vital de l'organologie générale. Qui en principe sont relativement stables. Je dis relativement stables parce que ne sont pas si stables que cela, en réalité. En particulier si on fait rentrer dans l'organologie générale toute la période qui date d'avant 300 000 ans, c'est-à-dire qui va d'il y a 2 millions d'années à l'époque de Néandertal, les organes, les relations entre les organes du corps se transforme. J'ai dit ça en pensant à Freud, que j'ai beaucoup cité, une lettre à Wilhelm Fliess, où Freud dit « L'homme qui conquiert la station debout est encore, s'oriente essentiellement avec l'odorat, et c'est l'abandon de l'odorat comme sens de l'orientation et le privilège qui va être passé à l'œil qui va constituer finalement une nouvelle relation aux organes génitaux et finalement va constituer la sexualité de l'être humain. » Et ça, il le relie absolument à la station debout, donc à la conquête de la technicité aussi. Ce que j'ai appelé les organas ou les pharmaka, ce sont les prothèses. Ce sont les objets techniques qui font système, qui s'individuent, à l'intérieur d'un système, mais qui sont en relation, je reprends un terme là aussi de Simondon, transductive avec les organes physiologiques, et qui sont indispensables au fonctionnement de ces organes physiologiques. Ce que dit très bien Rousseau, d'ailleurs, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, à savoir si on enlève à l'homme... ses armes, etc., il ne peut pas survivre dans la forêt, dit-il. Tout en posant que l'homme de la pure nature n'avait aucun de ces objets-là, parce que lui, il présente ça comme la dégradation de l'homme de la pure nature. Ça s'individue, ça se transforme à travers le temps. Le corps aussi se transforme. Et puis, troisième couche, c'est les organisations qui sont ce qui agence, ce qui définit les règles d'agencement entre les organes physiologiques et les organes techniques. C'est ce que j'appelle les organa ou les pharmaca. Mais qui sont encore organiques, si je puis dire. Une organisation, c'est ce qui crée des relations de dépendance entre des organes. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça pharmaca? C'est parce que j'ai pas pu le développer là aujourd'hui, mais c'est Platon qui parle de pharmaca, c'est-à-dire de... au sens où il le dit à propos de l'écriture, donc de la grammatisation, parce qu'il appelle la grammatisation en disant c'est un remède. Les objets techniques, les prothèses, les pharmacas sont des remèdes pour lutter contre un état de fait, de faiblesse. Mais ce sont aussi des poisons, puisqu'en grec, pharmakon, ça veut dire à la fois remède et poison. Donc ce sont des objets ambigus, c'est le milieu ambigu dans lequel nous vivons. Et ça, c'est donc ce dont nous faisons, nous, aujourd'hui, l'expérience. Quand je parle d'impuissance, c'est nous faisons l'expérience de ce que j'ai appelé, j'ai pas voulu développer ça aujourd'hui, une pharmacologie générale. Nous faisons le constat, finalement, que nous sommes entourés, nous ne vivons que dans des remèdes, que ces remèdes produisent essentiellement des perturbations et donc s'avèrent être des poisons, et il faut que nous apprenions à vivre dans ce que j'appelle un nouveau soin, une nouvelle manière de prendre soin. C'est ça, je crois, qui doit être l'invention de cette nouvelle modernité.
Moi je voudrais te poser... Pardon.
Est-ce que vous pourriez revenir aussi un instant sur l'intelligence des fins et en quoi elle est différente de la métisse des Grecs?
Oui. La métisse des Grecs, comme vous le savez, c'est l'intelligence que les humains partagent avec les animaux. Par exemple, chez les Grecs, la pieuvre est une métisse. C'est ce qu'a développé Marcel Détienne dans un livre qui s'appelle La métisse des Grecs. C'est-à-dire que la métisse, qui est la figure de la métisse, c'est l'Ulysse, hein. Mais c'est une espèce d'intelligence instinctive, c'est la ruse. Et les Grecs disent cette ruse, elle est partagée avec, finalement, c'est l'intelligence du grand prédateur. Ou du grand prédateur, ou de la grande proie. Alors, par exemple, la métisse des Grecs, chez les animaux, c'est celle de la pieuvre, qui produit le nuage d'encre pour se protéger. C'est aussi une métisse, ça peut être aussi une ruse de la proie. Mais c'est une intelligence des pièges et de la façon de déjouer les pièges. L'intelligence des fins, dont je parle là, c'est autre chose. C'est l'intelligence de ce que j'appelle l'autre plan. Ce que j'appelle parfois le plan des consistances. C'est l'intelligence de l'incalculable. La métisse, c'est une mise en pratique empirique de la calculabilité. Mais c'est ce qui, sans être capable de calculer, sait faire des calculs instinctifs, si on peut dire. Tout comme, par exemple, on va dire Kasparov face à Big Blue. D'instinct, il n'a pas la possibilité de mobiliser je ne sais pas combien de téraoctets de mémoire, etc. Mais d'instinct, il va contrarier Big Blue, donc devant cette machine qui calcule. C'est une métisse. C'est une métisse. Alors moi, je pense que ce n'est pas seulement une métisse, dans le cas des échecs. Ce que je veux dire par là, c'est que parce que vous savez bien que Big Blue a battu, de fait. Mais pourquoi? C'est parce que je crois qu'à un moment donné, un très très grand joueur d'échecs pourrait battre Big Blue. Je le crois. En sortant, en produisant une époque au jeu d'échecs qui remettrait radicalement en cause toute l'histoire de la littérature des échecs. Parce que Big Blue, comment ça fonctionne? C'est une machine qui a toute l'histoire de tous les coups connus dans la mémoire et qui est capable de les balayer. Mais s'il y a un inventeur d'un nouveau coup qui arrive, Big Blue sera battu. Voilà ce que je crois. Je pense que les coups sont pas réductibles à une calculabilité, mais relèvent d'une invention. Alors là, on rejoint une thématique que Pierre Damien a soulevée ici à plusieurs reprises, qui est la question de l'invention, que je n'ai pas développée ici, mais qui est évidemment fondamentale. Pour avoir accès à cette invention, il faut accéder à ce que j'appelle des plans de consistance. Et ça, c'est pas la métisse. c'est l'intelligence des fins. Des fins, c'est-à-dire des motifs. Pour moi, les fins, ce n'est pas les fins au sens simplement du règne des fins, tel que Kant s'y réfère dans un texte. On peut se dire, c'est après l'eschatologie, c'est au-delà de l'eschatologie, mais en même temps, bon. Moi, je parle d'un règne des fins, c'est-à-dire d'un règne des motifs, c'est-à-dire d'un règne des désirs. Voilà. C'est l'intelligence des fins, c'est l'intelligence des désirs. Alors, la métisse, c'est pas encore le désir.
C'est l'intelligence du besoin.
Ouais, c'est une intelligence du besoin, absolument. Qui peut aller extrêmement loin, qui peut être absolument fabuleuse, et dont le règne du désir a besoin. L'intelligence du désir a absolument besoin de l'intelligence des besoins. C'est ce que si on satisfait, c'est ce que dit Freud d'ailleurs, si on n'étaye pas le désir sur les pulsions, il n'y a pas de désir possible. Donc il faut que le désir calcule pour cette raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, le désir calcule toujours. Mais il y a toujours un au-delà du calcul dans le désir. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas simplement la métisse. Il y a un livre qui vient de sortir sur la métisse que je n'ai pas encore lu, qui est paraît-il fameux. Non, je ne fais pas Stupidity, c'est un livre d'une brésilienne dont j'arrive pas à trouver le nom. J'arrive pas à retrouver son nom.
Oui, moi j'avais. Je vais pas tout de suite dire ce que j'avais en tête tout à l'heure, parce que simplement je fais une incidente, parce que la question de la métisse, la question de la ruse et de l'installation, moi j'avais dit dans les séances précédentes, subreptice de la modernité dans les cultures en général. Je pense que c'est une question. Je suis en train de perdre ma voix pour des raisons.
Je viens de la retrouver, moi.
Mais je pense que la notion de ruse, la question de la ruse, ça mériterait peut-être un examen finalement plus attentif qu'on peut l'imaginer, parce que j'étais en train de penser au statut de la ruse, par exemple chez Machiavel, et au statut de ce concept au moment de l'installation à la fois des États modernes et de l'idée moderne de politique. Ce qu'il en est précisément de cette ruse qui n'est pas la métisse d'Ulysse, qui n'est pas la métisse dont tu viens de parler, ou qui est celle qu'analysait Jean-Pierre Vernant, Marcel Détienne. Il y a sûrement un sujet là, effectivement, qui pourrait nous intéresser.
T'en as parlé d'ailleurs.
Oui, j'en ai un peu parlé. Oui. Moi, en fait, je sais pas, tu parlais d'affûter les couteaux tout à l'heure. Alors, je sais que le couteau est chez toi un objet théorique, hein. Un objet de collection, mais moi, je pense que s'il faut trouver de nouvelles armes, il faut à la fois fabriquer les armes et puis en même temps, il faut les affûter, précisément. Hein. Donc, je pense que si je peux faire quelque chose, ça serait plutôt là. Moi, je ne saurais pas fabriquer les armes, mais peut-être les réglages. Donc, j'en avais quelques-uns là, par rapport à ton exposé. Donc, alors, peut-être qu'il y a aussi des questions quand même plus grosse, mais parmi les petits points pour commencer, donc c'est des questions que je me pose sans réponse dans l'esprit. Par exemple, est-ce qu'on a raison de parler du calcul, on va dire le calcul? Est-ce qu'un calcul, autrement dit, est-ce qu'il y a plusieurs calculs possibles? Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi à poser aujourd'hui aux mathématiques, aux mathématiciens sur cette notion même? Voilà, est-ce que c'est pertinent de raisonner ou d'attaquer, disons, les problèmes avec l'idée que on aurait raison de parler du calcul au singulier? C'est une vraie question. Hein. Je sais qu'il y a des mathématiciens qui travaillent pour les assurances aujourd'hui. Il y a des laboratoires développés, je sais pas, chez Paribas, etc., où on embauche des polytechniciens, on les paye extrêmement cher pour fabriquer des modèles du risque, hein, qui permettent vraiment. Est-ce qu'on peut échapper à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir finalement... développer cette question-là, c'est-à-dire où se situent les mathématiques dans la lutte telle que tu la poses? C'est une première question.
D'abord, moi, je suis un peu housse en lien. Je pense que la mathématique ne se réduit pas à l'arithmétique. Et que la science du calcul, c'est l'arithmétique. Alors bien entendu que je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a des calculabilités, ça c'est tout à fait clair. Je dirais même que une des grandes activités du XXe siècle, ça a été de penser des régimes de calculabilité extrêmement variés. Mais ces calculabilités, dont il faudrait faire une histoire, enfin, il y a eu toute une. Geneviève Guittel, avant de parler de. Enfin, il y a toute une histoire de la numération déjà à faire, c'est très très important. Moi, j'ai essayé de montrer que, par exemple, il n'y a pas de calcul, enfin, en m'appuyant sur Geneviève Guittel, justement, c'est-à-dire sur Morazé, puisque Geneviève Guittel, c'était une élève de Morazé, Charles Morazé, il n'y a pas de calcul sans machine à calculer. Bon. Et que ce soit des abacs, que ce soit des tatouages sur la peau, que ce soit n'importe quoi, il y a toujours un support de calcul, ce que j'appelle un substrat du calcul. Et que pour faire une théorie du calcul, il faut faire une théorie du support du calcul. Et je pense que les différentes époques de décalculabilité sont aussi des époques, je reviens sur mon truc, de la grammatisation, parce que chaque nouvelle théorie du calcul correspond à une nouvelle époque de la grammatisation. Enfin, en tout cas, je le crois. Alors, je suis pas du tout un expert, donc il y aurait un mathématicien ici, peut-être qui me démontrerait en 3 minutes que je raconte n'importe quoi. Mais je crois pas que je raconte n'importe quoi là, quand même. Je pense que c'est assez cohérent avec l'histoire de la calculabilité. Maintenant, certainement qu'il y a des calculabilités, ça, je pense que tu as tout à fait raison. Mais il y a une question de la calculabilité, par contre. Enfin, moi, en tout cas, je pense que l'enjeu de la question de la calculabilité ou des calculabilités, c'est si on le donne dans le registre Husserlien, c'est calcul et intuition. C'est-à-dire que Husserl, par exemple, dit les mathématiques ne se réduisent pas au calcul. Et ça suppose de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça ne se réduit pas au calcul, c'est toute la question. En fait, chez lui, ça veut dire ça ne se réduit pas à l'automatisation de la calculabilité. Dans la crise des sciences européennes, 1930, je sais plus combien, 35 peut-être, il dit aujourd'hui, alors vous vous souvenez de ce livre, il est écrit dans son début en référence à la Première Guerre mondiale, il faut en venir la Deuxième d'ailleurs, et il parle de la réduction des sciences, et en particulier des mathématiques, à une pure calculabilité. Il parle d'une autonomisation du symbolique, c'est-à-dire une possibilité de mettre tous ces symboles dans des machines et de faire que finalement le calcul puisse épuiser toute l'activité formalisante. Ben, il parle de grammatisation en réalité. Il dit la science, et en particulier les mathématiques et la géométrie, ne peuvent en aucun cas se réduire à ces processus-là. Moi, je dirais, les mathématiques, c'est avant tout une activité du désir. C'est comme ça que je retraduis tout ça. C'est-à-dire qu'un mathématicien, c'est d'abord un être qui sublime, c'est pas du tout un être qui calcule. Maintenant, c'est aussi un être qui calcule. C'est-à-dire, pour pouvoir sublimer, il faut calculer. Après, qu'il y ait des calculabilités, bien entendu. Mais ces calculabilités, qu'est-ce qui est calculable? Alors, peut-être que ce que tu veux me dire, en me posant cette question, c'est que, finalement, là, dans ma définition du calcul, ça renvoie à une classique opposition entre le fini et l'infini. Parce qu'en principe, il est calculable ce qui est fini. Même si on calcule avec l'infini ou avec le transfini. Et là, effectivement, il y a toutes sortes de questions complexes. Mais je dirais que l'infini dont je parle, c'est l'infini, quand je parle de cet infini qui s'oppose au fini, comme étant l'incalculable qui s'oppose au calculable, c'est l'infini qui n'est pas mathématisable. Qui peut pas faire parce qu'il est le singulier en tant que tel. Voilà, c'est la question du singulier finalement. Voilà. Alors après, les calculabilités sont, parce que moi je n'oppose pas un calcul et l'incalculable. Au contraire, je pense que ça compose absolument permanent, je les distingue. Mais on pourrait peut-être dire, alors là par exemple, si j'arrive plus à me souvenir de son nom, Jean Lassergue était là, je l'aurais tout à coup convoqué à nous parler de Turing. Turing est un des grands mathématiciens qui a tourné autour de ces questions et qui, à un moment donné, la SEG a fait une intervention à Cerisy-la-Salle dans le colloque que j'avais organisé sur l'organologie, justement. Montrant que Turing avait décidé d'abandonner les mathématiques et de passer à la biologie parce que il ne trouvait plus de quoi se satisfaire dans les questions de calculabilité pour endurer la question de la singularité. Mais bon, là, je ne suis pas compétent, donc je ne sais pas te répondre au-delà de ces généralités, quoi. Ça, c'était ta première question.
C'était la première question. Mais l'autre question, ça serait peut-être plutôt pour souligner un enjeu. J'avais noté, chemin faisant, pendant que tu parlais, une remarque, disons, pour moi ou pour te l'adresser, concernant la place, disons, de la relative de la poiesis et de la praxis. Le rapport possible du poétique et de ce qu'on peut appeler, ce que tu as appelé l'action. On est d'accord que ce qui est catastrophique, c'est qu'on soit désarmé devant l'action, ou quelque chose de ce type-là. La question que je me pose, c'est celle de savoir quel est le statut du poétique par rapport finalement au politique en général, et donc par rapport à l'action possible. Tu as évoqué à un moment donné, plus tard dans ton exposé, je crois que j'ai noté à peu près la formule, l'idée que les programmes littéraires pouvaient être transformés en programmes politiques, quelque chose de ce type-là. Est-ce que, en fait, il ne faut pas évoquer la nécessité d'entretenir de façon permanente la politique par du poétique? Voilà. Et alors, quel est le statut de ce poétique par rapport, quel statut économique finalement de ce poétique? Est-ce que c'est une activité qui est nécessairement hors marché? Quel est son rapport avec l'industrie? Enfin, voilà tout ce genre de questions que je...
D'accord. Moi d'abord, je passe pas de la poésis au poétique. Parce que je pense que la poésis, chez les Grecs, nous entendons le poétique dans la poésis, mais chez les Grecs, la poésis peut ne pas être poétique du tout. Tu vois ce que je veux dire? Le poétique chez les Grecs, finalement, c'est le faire, quoi. C'est la production. Donc, et c'est en ce sens-là que c'est très difficile de penser avec les mots grecs dans notre nouvelle organisation du rapport entre le sum et le negotium, parce que... Mais chez eux, chez Aristote, par exemple, la question de la poésie, c'est pas la poésie, c'est la praxis. Je crois, hein. Je crois. Peut-être que je me trompe, c'est très compliqué chez Aristote. Donc, cette précision étant faite, en même temps, ça m'intéresse que poésie, c'est poétique, ce radical commun. Parce que d'abord pour moi la poésie, là, pour le coup, c'est un mode du faire, fondamentalement. C'est une technique, autrement dit. Poésie se renvoie à la technique. Et une des choses que je combats alors là depuis vraiment longtemps, depuis l'origine même de mon travail, c'est la tendance à opposer le poétique au technique, l'artistique au technique, le philosophique au technique. Je pense que ça, c'est typiquement une illusion qui nous empêche de passer à une nouvelle époque de la modernité. C'est vraiment que... Et en revanche, c'est ce qu'a compris le capitalisme. Sachant d'ailleurs que je ne suis pas anti-capitaliste en disant ça, c'est pas le problème. Mais en revanche, je pense que le capitalisme l'a compris, mais il l'a tellement mal compris qu'il est devenu nocif, très gravement nocif, dans cette compréhension qu'il a eue du fait que la production... Et la technique, c'était le cœur de la poésis. Et du coup, il a fait que l'osium, justement, les industries culturelles, enfin le sensible, etc., il les manipule, il les convoque pour produire des sociétés de contrôle. Alors, maintenant, pour répondre vraiment à ta question, moi, je pense que la politique de demain, telle qu'elle passe par une poétique, effectivement, c'est ce qui désigne une politique de la singularité. je pense qu'il n'y aura de politique de demain possible que si c'est une politique de la singularité. Et j'ajoute, cette politique de la singularité, c'est une économie politique de la singularité. Puisque tu me demandais quoi sur le plan économique, quoi sur le plan industriel. La politique, c'est de l'économie politique. Là où je suis très très résistant à Hannah Arendt, j'ai beaucoup de complicité avec Hannah Arendt, mais là où je suis très résistant à Hannah Arendt, à Paul Ricoeur, à Claude Lefort et tous ces gens-là, c'est quand ils disent qu'il faut séparer la politique de l'économie. Alors ça, je n'y crois pas du tout. On va me dire, ça c'est le fond marxiste de Stigler qui ressort, indécrottable et archaïsant. Mais je crois que c'est pas du tout archaïque. Je pense que ce qui est archaïque, c'est au contraire de dire qu'on peut faire une pensée du politique sans l'économie. C'est absolument impossible. C'est ce qu'on voit en ce moment. C'est le résultat catastrophique de la social-démocratie qui nous conduit au blairisme en France. C'est ça. Et précisément, Blair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé un discours d'économie politique. Mais en devenant un satchérien de gauche. Bon. Il faut absolument penser une nouvelle économie politique de gauche réellement et pas satchérienne. Et ça, c'est la question de la singularité. Autrement dit, quand je dis qu'il faut bâtir une politique de la singularité, je dis qu'il faut une économie libidinale industrielle. Il faut reconstituer une économie libidinale. Pour moi, la poésie, quand je dis la poésie, je dirais la poésie, la peinture, la musique, hein, les muses, disons, les muses, ce sont les formes les plus hautes de la sublimation, c'est-à-dire du désir. Voilà. Donc, une politique, une économie politique du désir, c'est une économie politique des singularités et réciproquement. La singularité, où est-ce qu'on la trouve le plus? On la trouve dans la poésie, dans la peinture, dans la musique. C'est la singularité sans concession, toutes ces activités-là. C'est-à-dire, c'est le désir sans concession. C'est le désir qui, comme aurait dit Lacan, ne transige pas avec son désir. Je vous emmerde, je suis un artiste, ça ne vous plaît pas, c'est pareil. C'est le même prix, uniprix, monoprix. Comme dit... Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut en faire une politique. C'est-à-dire qu'il faut... alors là, tout à coup, je me projette dans... Je pense que dans ce colloque, si on a envie que ce colloque ait une prise sur son temps, il faudra qu'on parle des internautes, de ce que j'appelle le temps des amateurs, de ces gens qui veulent pratiquer, participer, avoir des activités de leur désir, et qui vous disent c'est le même prix, uniprix, monoprix. Et ça, c'est une politique de la singularité, c'est une poétique aussi, si tu veux. Quand j'ai écrit un livre où je m'en prends un petit peu à Ségolène Royal, en disant elle se moque du monde parce qu'elle ne propose pas cette poétique. Elle propose des espèces de slogans. Elle a senti le truc, c'est la métisse de Ségolène Royal, c'est l'Ulysse du 21e siècle français dans la première décennie, pourvu qu'il y ait au-delà de cette première décennie, c'est ça le problème. Bon. L'Ulysse féminin, elle a une métisse, ça c'est sûr, mais il lui manque une intelligence des fins, je crois. Et cette intelligence des fins, c'est cette poétique. Alors ça, pour moi, ça passe par une articulation. C'est pour ça que je cite toujours Claudel, entre le calculable. Donc, une articulation avec l'industrie, avec la banque, avec... il faut reconstituer une somptuosité de l'économie capitaliste. Il faut reconstituer quelque chose qui produit de l'économie libidinale. C'est ce que je crois. Autrement dit, du temps différé. Autrement dit, du long terme. Parce que le temps du désir, c'est le temps du long terme. Ça, c'est vraiment un truc un peu basique, mais la pulsion est court terme. Vous avez remarqué ça. La pulsion dit toujours tout de suite. Le désir dit... c'est la différence avec un A.
Et alors, dans cette perspective, comment vont cohabiter l'amateur et l'auteur?
Moi, je pense qu'un auteur produit des amateurs. Ah ben, je pense qu'un bon auteur produit des amateurs. Alors, un amateur, par exemple, quel genre d'amateur? C'est un amateur qui ne va pas forcément... L'amateur n'est pas nécessairement le rimailleur qui va chercher, comme monsieur de Villepin, à de temps en temps faire des... Bon, c'est ça aussi. C'est comme le peintre du dimanche et le musicien de jazz minable que j'étais, etc. C'est aussi ça. Mais l'amateur, c'est celui qui individue par sa pratique des œuvres, c'est-à-dire qu'il produit de l'individuation collective. Alors cette individuation, elle peut consister à dire tiens, ce soir, on n'est pas des très très bons musiciens, mais on va passer une soirée à jouer du rock, du jazz, ou à un quatuor de Beethoven, ou on va chanter à la chorale, comme on a dit à Vincent Puig, ou etc. Bon. Ou ça peut être ce que j'ai fait pendant des années, parce que j'étais un très très mauvais musicien, mais par contre, j'étais un passionné de musique, et moi, je, pendant des années, j'ai même créé une boîte de jazz pour ça, je faisais écouter la musique aux autres. Et c'était une activité, et j'étais un amateur en sens, mais je transindividuais de la musique. Bon. Et je me prenais pas du tout pour autant pour un musicien. Mais par contre, les musiciens m'aimaient bien.
En revanche, aujourd'hui, il y a une forme de revendication d'autorité et dont j'arrive pas à concevoir l'articulation qu'elle a avec la Madora. C'est-à-dire, est-ce que les auteurs ont besoin de s'affirmer binombrables comme tels avant de devenir des amateurs ou bien c'est une voie qui peut être et individuellement et collectivement dangereuse politiquement.
Bah oui, moi je pense qu'elle est politiquement très très dangereuse, hein. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, hein, La Télécratie, où je parle à la fin du populisme non pas télécratique au niveau de la télévision, mais qui peut se développer maintenant sur les blogs. Bon. Mais c'est le pharmacone, typiquement. Elle est dangereuse, bien sûr, et en même temps, c'est là que... Bon, maintenant, quel en est le sens? Ça fait déjà quelques années que j'essaye d'en interpréter... Enfin, j'ai écrit un peu sur Star Academy, parce que c'est le même processus. C'est l'expression désespérée parfois. Je dis parfois, parce qu'on a souvent entendu parler de blogs, de gens qui se sont suicidés, hein, qui annoncent leur suicide sur leur blog. Bon, il y en a quand même eu beaucoup, hein. C'est frappant, c'est un phénomène très frappant. C'est incroyable que les gens se compliquent la vie à créer un blog, etc., à chercher une notoriété pour annoncer leur mort. Mais il y en a eu un certain nombre. Hein. C'est une expression désespérée de ce que j'appelle, moi, la perte du narcissisme primordial, c'est-à-dire la perte de la reconnaissance, la perte de la perte d'individuation. Qui est arrivée à un point tel... que les gens cherchent à se soigner à tout prix, donc et chez certains ça marche très bien en plus, hein, parce qu'il faut pas non mais il se passe des choses tout à fait surprenantes dans ces registres là tout à fait riches et prometteurs, même s'il se passe aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire beaucoup de après le problème c'est que c'est ce que j'ai appelé les courts-circuits dans la transindividuation. Bon, moi ces questions là relève de ce que j'appelle la transindividuation. Donc j'ai essayé de montrer que pour qu'il y ait de la transindividuation, pour qu'il y ait de l'individuation, d'abord il faut qu'il y ait de la transindividuation. Et pour qu'il y ait de la transindividuation, il faut qu'il y ait des milieux associés. Des milieux associés qui sont des milieux où circule l'individuation. La langue, par exemple, où tout le monde, c'est ce que je redis tout le temps, hein, tout le monde parle. Et un poète, par exemple, ne peut écrire un poème que parce qu'il pose en principe que celui qui le lit parle comme lui. C'est ce que Husserl appellerait la communautisation. Il dit pour la géométrie, je ne peux m'adresser à quelqu'un que si, comme moi, il peut lire un théorème de géométrie, et donc l'écriture. Parce que sinon, c'est pas possible, je ne peux pas m'adresser à lui. Un poète pose que celui à qui il s'adresse parle comme lui, ça ne veut pas dire qu'il pose, qu'il est poète comme lui. Mais en revanche, Joseph Beuys dit, il est artiste comme moi, en puissance, et pas en acte. Et tout le problème, c'est comment... Il y a un passage à l'acte. L'artiste, c'est celui qui cherche à rester artiste en acte du matin au soir. On peut pas, c'est pareil des philosophes et des curés. On peut pas dire je suis philosophe 8 heures par jour, par exemple. On peut pas dire je suis philosophe quand j'arrive à la Sorbonne, et puis avant d'arriver à la Sorbonne, je suis pas philosophe, donc je vois un mec qui se fait casser la gueule, je dis j'ai rien à foutre. Bon. Non, si je suis philosophe, je suis comme Alain Cavaillès. Je dois m'engager dans la résistance. Et je me fais fusiller. C'est ça être un philosophe. Et quand je rentre chez moi, si je commence à insulter ma femme, etc., bon, ben, je suis un philosophe qui... Ça arrive, hein, je peux même la tuer. C'est arrivé, un grand philosophe français. Mais on ne peut pas être philosophe à plein temps. Ce n'est pas possible. Aristote dit, Dieu seul peut jouir du privilège. Et on ne peut pas être artiste à plein temps. Même s'il y a des Picasso, des gens comme ça, dont on se dit, c'est incroyable, mais moi, je connais plein d'artistes qui ne sont pas du tout à plein temps. ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des artistes. En tout cas, quand Beuys dit tout homme est un artiste, ça veut dire tout homme est un artiste en puissance, c'est-à-dire que tout homme à qui un poète s'adresse en lui adressant un poème, s'adresse à lui comme quelqu'un qui parle et qui doit pouvoir en droit parler poétiquement. C'est-à-dire que si je ne pose pas que la parole de l'homme ordinaire peut accéder à une poéticité de cette parole, je ne lui parle pas. Ça, c'est pas possible. C'est comme quand je fais un cours de philo. Si je ne pose pas que mes étudiants ou mes élèves ne sont pas philosophes, par moment, je ne peux pas leur faire de la philosophie. C'est pas possible. Et je ne peux pas non plus être curé comme ça, 5 heures par jour, bon, normalement. Bon. Il se trouve qu'il y a des régimes parce qu'on dit qu'on peut être médecin de telle heure à telle heure. Quoique non, le médecin non plus, serment d'Hippocrate, c'est que je suis médecin à plein temps, bon, etc. Mais, bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la question de la participation. On en fera un sujet à Ars Industrialis, d'ailleurs, dans la réunion qui se fera le 20 janvier sur la démocratie participative. On va parler de la participation. Et cette participation, lorsque Aristote dit « toute âme noétique participe au divin », il pose que je suis noétique, qui que je sois, même quand je suis le dernier des derniers, en puissance, même si je ne suis pas en acte. Après, il y a une organisation de la société, de la trans-individuation, parce que l'organisation de la société organise des circuits de trans-individuation qui produisent ce que Rancière a appelé, et ça c'est une très belle expression, un partage du sensible, et pas simplement un partage du sensible, où, bah oui, je sais que en fait, dans ma condition d'esclave, dans ma condition de serf, dans ma condition de roturier, je n'accède pas au statut d'amateur auquel les nobles seuls ont droit, ou bien auquel ont droit au statut d'artiste auquel seuls les artistes libéraux ont droit et qui ont été désignés comme tels par des princes, etc., etc. C'est un fait. C'est un fait qui est triste. Ça ne m'empêche pas de regarder de la peinture, de goûter de la musique, etc. Mais je ne peux pas la pratiquer, donc je suis un sous. Je suis sous-équipé par rapport à ça. Et puis il y a des gens qui sont suréquipés. Parce qu'ils fréquentent les cours. Bon, ça sont des circuits de la trans-individuation. C'est ce que j'appelle des circuits longs. Plus ou moins longs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à des courts-circuits dans la transindividuation, c'est-à-dire qu'on a carrément exclu du circuit des pans entiers de population, des pans énormes, totalement court-circuités. Et ça produit de la perte d'individuation, de la désespérance, et parfois vraiment des actes désespérés, quoi.
Juste une petite parenthèse, je te signale sur la démocratie participative, un tout petit article de Libération d'aujourd'hui qui décrit les consignes données aux militants pour encadrer efficacement les participations. Je te signale ça. Ça voilà.
Très intéressant.
Je voulais revenir aussi sur la question des objets. Parce que tu disais qu'il faut qu'il y ait que l'époque requiert une intelligence collective nouvelle. Hein, alors on est bien d'accord que cette intelligence collective, elle est intelligente que dans la mesure où elle n'est pas une intelligence de masse, dans le vocabulaire que moi j'utilise, qui n'est pas le tien, mais c'est une intelligence dans laquelle il y a précisément des singularités qui s'entretiennent. Sinon, ce n'est pas une intelligence collective. Mais alors, moi, il me semble que pour que cette intelligence ait lieu, il faut qu'il y ait des propositions qui lui soient faites d'une manière ou d'une autre. Et il faut qu'il y ait des objets. Il me semble que cette intelligence, d'ailleurs, tu l'as dit d'une autre manière, s'entretient à l'occasion d'objets. Mais alors la question que je me pose, sur laquelle je bute, c'est de savoir d'où viennent ces objets qui peuvent entretenir cette intelligence, qui font que c'est pas la même chose quand il y a du jazz, celui que tu aimais, quand il n'y en a pas. C'est pas la même chose quand il y a dans le cinéma la nouvelle vague et quand il n'y a pas la nouvelle vague, etc. Alors d'où vient qu'à certains moments il y a des... Je ne sais pas comment dire ça, il y a des forces. Alors, je ne suis pas sûr, justement, que ça soit des forces. C'est en fait ça, ma question. Hein. D'où vient qu'il y a des énergies qui sont peut-être des énergies mineures, d'ailleurs, mais qui entretiennent des objets grâce auxquels de l'intelligence collective est possible. Bon. D'où ça vient? Moi, j'ai l'impression qu'à certains égards, on est... En tout cas, on tombe vite dans une description assez tragique de la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que on est à la fois... très très au clair sur ce qu'on doit faire et en même temps très au fait sur le fait qu'on ne peut pas le faire. Bon, donc on est le propre d'une situation. Comment on sort de ça? Voilà. Alors, à un moment donné, dans ton exposé, tu as évoqué le mot de sursaut m'évoque quelque chose, parce que je crois que c'est un mot qu'Heidegger utilise dans l'une des postfaces de son texte à l'origine, sur l'origine de l'œuvre d'art. Le pas en arrière, enfin...
Le saut, il dit, pas le sursaut.
Alors, justement, il y a un problème de traduction.
Oui, il y a un problème de traduction, tu as raison.
En tout cas, bon, j'ai sursauté sur le sursaut, quoi, c'est-à-dire, parce que finalement, un sursaut, c'est quelque chose qui nous fait revenir en arrière, quoi. Moi, je pense à ce geste-là. Donc, est-ce que le sursaut, donc, est nécessaire? Question qui est quand même liée d'une manière ou d'une autre à Heidegger. Ou bien est-ce qu'il faut quelque chose comme une ruse? Mais alors qui est laquelle? C'est pour ça que je pensais
celle
pas...
de Sherazade.
Enfin, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, une ruse, mais laquelle? Parce que c'est pas évident si c'est la ruse de Dully, si c'est la ruse de Machiavel ou une autre ruse.
Celle de Sherazade.
Voilà, c'est une autre façon d'être rusé. Bah, voilà. Ou bien, est-ce qu'il faut alors une proposition politique plus classique, une proposition politique en tout cas plus éprouvée, des rapports de force qu'on appelait des rapports de force, mais comment ils se constituent? Et d'où ça peut venir? Et en particulier, est-ce que l'industrie est capable de produire d'elle, enfin venant d'elle, justement des objets qui entretiendraient cette intelligence collective dont nous avons besoin, tu vois? Enfin voilà. Mais ma question porterait surtout sur peut-être sur le sursaut, la ruse ou autre élément de ce type.
Bon, d'abord, je vais dire. En préalable, à propos de l'intelligence collective des singularités, l'intelligence collective des singularités, que la première chose que je pose, c'est que c'est une intelligence instrumentée. Qu'est-ce qui a fait la grande force de la métaphysique? C'est l'organon d'Aristote. Je veux dire, Aristote a pensé un organon. Il a dit, à un moment donné, maintenant, il faut instrumenter le logos. Et il a dit à Platon, ça suffit de toujours ricaner sur les sophistes. C'est bien gentil de se moquer des sophistes, mais il y a une efficience du discours des sophistes qu'il faut penser. Et donc, il a écrit les analytiques. D'abord le Périherménéas, et ensuite les analytiques. Et il a commencé à analyser les figures rhétoriques, et patati et patata. Et il a dit, c'est à partir de ça qu'on va construire une logique. Dont Heidegger a raison de dire que c'est une ontologique, c'est-à-dire c'est un discours sur l'être. Sans les analytiques d'Aristote, il n'y a pas la métaphysique d'Aristote. C'est impossible. Parce que c'est une métaphysique de la proposition, et cette métaphysique de la proposition vient d'une discussion des analytiques. Analytique veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Qu'est-ce que c'est que les analytiques? C'est la grammatisation du logos. Toutes les grandes époques de la philosophie sont des époques d'instrumentation de la pensée. Pas d'instrumentalisation, bien entendu. D'instrumentation pour lutter contre l'instrumentalisation, justement. Que ce soit la méthode de Descartes, que ce soit la caractéristique universelle de Leibniz, que ce soit la proposition spéculative de Hegel, etc., etc., à chaque fois, c'est une réinstrumentation, un nouvel organon. Sachant que ce qui unit tous ces devenirs, qui relèvent tous de la première période de la grammatisation du logos, de la glossa, exactement, c'est qu'il rejette la technique, c'est-à-dire qu'il fondera la technique en la rejetant, tout en disant ils y fondront de fait, mais dans la réalité, ils sont toujours en train de donner, avec des exceptions bien entendu, il y a un certain nombre d'exceptions, Bacon, etc. Mais très massivement, il rejette la technique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à penser dans ce cadre qu'on appelle la métaphysique, et pour moi, la métaphysique, c'est ce qui consiste à refouler la technique, la technicité des instruments de la pensée. Et que, alors donc il faut commencer par faire une critique de la métaphysique, et c'est de ce point de vue-là que je dis, il ne faut pas revenir à un discours moderne, au sens de la philosophie moderne. Ce qu'ont fait Foucault, Deleuze, Derrida et Lyotard est absolument fondamental, cette question de l'instrumentation de la pensée. Mais il faut faire un saut de là, on va dire Heidegger, parce qu'il emploie cette expression de saut de là, ah non, ça c'est Blanchot, excuse-moi, c'est le pas au-delà de Blanchot. Un saut, il parle de saut à plusieurs reprises, peut-être sursaut aussi. Dans quelque chose qui est justement, alors là pour le coup, une rupture avec Heidegger. C'est-à-dire que l'individuation, c'est une nouvelle instrumentation de l'individuation. Et je prends le mot instrumentation au sens y compris d'un compositeur. Mais un compositeur instrumente à nouveau frais quand il s'approprie de nouveaux instruments aussi. Voilà. Ici, je vais reprendre la question des pharmacas. J'en ai parlé aussi dans La télécratie contre la démocratie. La télécratie contre la démocratie, c'est un livre où j'essaye de dénoncer le pouvoir qu'a pris la télévision sur la politique française, etc. Mais je dis aussi que la télécratie, c'est ce qui est à l'origine de la cité grecque. Parce que pour moi, la télécratie, c'est le pouvoir de la distance, de l'être à distance. Et par conséquent, quand Derrida parle de la dissémination, du fait que le texte est toujours orphelin, etc., c'est de télécratie dont il parle. Et précisément, qu'est-ce que reproche Socrate à Phèdre, c'est de se laisser télécommander télécratiquement par les discours tout écrits des sophistes qu'il lit. Donc, il est télécratiquement sur les terminés. Et qu'est-ce que dit Aristote? Il dit, attendez, cette télécratie, il faut qu'on se l'approprie. Donc, il y a toujours de la télécratie. Tous les milieux humains sont toujours déjà traversés par des processus télécratiques, des pouvoirs de la distance. Le chaman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis capable à distance d'agir. Mais le problème, c'est que ces télécraties sont généralement d'abord mises en œuvre au service d'un pouvoir autocratique qui développe pour s'asseoir dans son autocratie ce que j'appelle un processus de dissociation, c'est-à-dire de séparation. Il utilise la distance pour séparer et pour commander, pour se poser comme un arché, c'est-à-dire comme le principe de commandement. Et il y a un moment où le principe de dissociation... Effectivement, et ça Deleuze l'a formidablement vu, plus que n'importe qui, par des voies mineures la plupart du temps, se reconfigure, et moi je me suis intéressé à une figure précise ici même, à l'IRCAM d'ailleurs, mais pas quand j'étais directeur de l'IRCAM, quand j'étais à l'invitation de Jean-Baptiste Barrière venu travailler sur ces questions, j'ai dit Charlie Parker est la grande figure de la réassociation. Parce que Charlie Parker, comme Billy Holiday d'ailleurs et tout ça, utilisent les pouvoirs de dissociation du phonographe, de la radio, pour produire un nouveau processus d'individuation. Et ils prennent la tête de l'histoire musicale américaine, parce que quand même, la grande invention musicale en Amérique, c'est le jazz.
Ah oui, je suis d'accord.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de très grands musiciens de musique savante en Amérique. Mais la grande histoire musicale américaine, c'est le jazz. Bon. Et d'ailleurs, quand je vais à Chicago, je suis heureux de voir que immédiatement on m'amène dans des voies de jazz. Ça s'est pas perdu, c'est encore vivant. Bon. Et ça, c'est un, là aussi dans un vocabulaire deleuzien, on dirait que c'est un agencement de la nouvelle instrumentalité qui au départ sert à produire une dissociation et d'un seul coup, un agencement va produire des nouvelles formes d'association. Alors, tu me dis où ça se produit et comment. Bon, ben, là je commence à te répondre en te disant dans des phénomènes comme ça et moi, j'ai beaucoup spéculé sur le livre de Philippe Carl, oui, qui parlait sûr. Le free jazz et Black Power. Bon, c'est une politique poétique. Hein? Et alors là, je suis allé très très loin, moi, dans ce truc-là, parce que j'ai hébergé des Black Panthers, c'est moi, pendant les années 60 et tout. Et vraiment, c'est un monde que j'ai bien connu, bon, où on ne pouvait pas se séparer. Quand Joseph Jarman, par exemple, on ne pouvait pas se séparer, sa lutte politique contre la ségrégation raciale, etc., de sa musique, c'était quelque chose d'inséparable. Bon. Ça, ce sont des très très forts moments de l'histoire de l'esprit, très forts moments. Maintenant, ces émergences-là, elles se produisent dans des champs de consistance qui sont toujours déjà là. Donc, sur ta question d'où on part, etc., ben, on part de la musique, de la poésie, de la géométrie, de la philosophie, des mathématiques, du droit, etc. Il y a tout cet héritage, ce que j'appellerais avec Simondon du pré-individuel, trans-individuel, qui est là et qui ne demande qu'à renaître, toujours, en permanence. C'est pas du tout une fatalité que la philosophie universitaire française, finalement, devienne de plus en plus quelque chose qui se coupe de la réalité sociale. Ça va changer, ça. Ça va changer. Ça change déjà avec beaucoup d'étudiants. Bon, on voit bien qu'ils le veulent. Alors après, sur le sursaut, je t'ai dit Sherazade, parce que j'ai une théorie de ça, effectivement. Moi, je crois que nous sommes dans cette révolution, nouvelle révolution technologique de la grammatisation qu'annoncent les nanotechnologies, les microtechnologies, etc., qui est une énorme révolution de la grammatisation. Pour la première fois, et c'est la raison pour laquelle je tiens à ce que Francis Beck soit présent dans ce colloque, pas forcément en personne, mais en dans son travail, même si tu t'en doutes bien, je suis en désaccord profond avec la politique de Francis Beck, enfin, Ulrich Beck. Francis Beck, c'est tout à fait autre chose. Je suis en désaccord profond avec la politique de Beck, parce qu'elle conduit à Giddens, justement. Mais je pense que Beck, il y a 20 ans maintenant, pour la première fois, a pensé le caractère catastrophique de la modernité. Il a dit, la modernité a changé de signe. Il faut produire une modernité réflexive, etc. Beaucoup de ces analyses me laissent très insatisfait. Mais c'est le premier à avoir posé ça, et avec une clairvoyance et une anticipation qu'on peut trouver chez personne d'autre. Bon, maintenant, on voit les questions de Beck venir. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La catastrophe du sensible ». Et j'ai dit, catastrophe, il ne faut pas le prendre au sens moderne, il faut le prendre au sens grec. Une catastrophe, c'est une strophe. Comme il y a une épistrophe, etc. C'est-à-dire que c'est une figure de rhétorique. La catastrophe, dans un poème ou dans une pièce, c'est ce qui vient dénouer une situation et conclure cette situation. Alors, on va dire, ça c'est très catastrophique, c'est-à-dire c'est la fin, c'est terminé. Non, c'est pas la fin parce qu'il faut faire une catastrophe des mille et une nuits. La situation dans laquelle nous sommes, c'est la situation de Scheherazade. Nous avons affaire au capitalisme financier. C'est le sultan. Nous sommes Scheherazade. Nous sommes belles, attrayantes, magnifiques, et nous savons chanter. Et donc le sultan veut nous croquer, et nous savons que s'il nous croque, il nous égouillera. Il va d'abord nous consommer sexuellement, et en plus, il va nous décapiter. Donc il faut que nous sachions raconter des histoires. Il faut que nous sachions produire mille et une nuits, et que nous réenchantions le monde. C'est pour ça que j'ai écrit ce manifeste d'Arsène Soulialiste avec Arsène Soulialiste qui s'appelle Réenchanter le monde. Il faut produire une poétique de Scheherazade. C'est une. Scheherazade, c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux, parce que c'est quelque chose qui. C'est une différence avec un A de l'exécution de la volonté du sultan qui est toujours mis en suspens dans l'impossible. Parce que. Il veut, il ne peut pas consommer Scheherazade parce que la sublimation que produit Scheherazade par rapport à la perspective de sa mort est plus grande que son désir pulsionnel de la consommer. C'est ça qu'il faut produire aujourd'hui. Et ça, ça suppose un art poétique. C'est l'art de Scheherazade qui est l'art en fait de Bagdad. Et cette Bagdad dévastée aujourd'hui par ce grand capital. J'avais noté un dernier point industrie, mais je ne sais plus pourquoi. Tu m'avais demandé.
Non, mais ça répond. Ben. C'est pas incompatible avec l'industrie.
Ah, oh, non seulement c'est pas incompatible, mais ça ne peut se faire que avec l'industrie. Avec le sultan. Sans le sultan, pas de Scheherazade. Et donc, il faut absolument séduire le sultan, mais il faut l'élever au-dessus de sa pulsionnalité. Et que le sultan aime Scheherazade bien plus encore à travers la beauté de son verbe qu'à travers la beauté de son corps. Ce qui n'est pas du tout une opposition de l'âme au corps, tu t'en doutes bien chez moi. Hein. Bien au contraire.
Est-ce qu'on considère que l'évocation de Scheherazade est une belle conclusion et en particulier bah quand même avant les fêtes qu'on va quand même passer les uns les autres dans la meilleure ambiance qu'on peut se souhaiter. Voilà. Merci pour cette année.
Merci.
Rendez-vous en janvier.
Merci à toi. Merci à vous. Bon, merci.